Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravie de vous retrouver à l'écoute de ce monde qui change et que nous suivons encore ce soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Un climat social qui se tend face aux violences raciales de la police aux États-Unis, mais en France aussi. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues ce samedi. Comment ce débat doit-il faire évoluer la police de l'intérieur? Alain Bauer est avec nous ce soir. 18h30, on refait l'actu, car même si l'épidémie de coronavirus est contrôlée, 2 à 3 mois après avoir été contaminé, il y a des malades qui souffrent encore. Le docteur Davido viendra nous expliquer ses effets durables. 18h50, une chanson dans la tête, celle de ces mamans artistes qui ont chanté leurs enfants. Comme Jennifer, en cette veille de fête des mères, ce sont les anecdotes que nous attendons en musique de Fabien Lecoeuvre sur Europe 1. Nous serons ce soir aussi en musique avec le violoncelliste Gauthier Capuçon qui part en tournée en solo sur les places des villages cet été. 19h15, la France poursuit sa lutte antiterroriste et l'armée vient d'abattre un chef important d'Al-Qaïda au Maghreb. Et puis 19h30, à 3 semaines du second tour des municipales, Frédéric Dabi nous parlera de la plus longue campagne électorale de la 5e République. Merci de nous être fidèles, voici une partie du sommaire. Et pour commencer, le journal de 18h avec François Claus. Bonsoir François.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h, bienvenue sur Europe 1.
Ils sont plusieurs milliers cet après-midi à défier l'interdiction de la préfecture de police de Paris, manifestant contre les violences policières. Si beaucoup d'entre eux ont été bloqués par les forces de l'ordre autour de la place de la Concorde, un autre rassemblement se déroule en ce moment même sur le Champ de Mars, où nous devrions retrouver dans un instant l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Jacques Héry.
Et dans ce contexte, François, le porte-parole de la police nationale se défend des accusations de racisme. Nous l'entendrons dans un instant.
Remettre sur les rails ceux qui ont décroché de l'école pendant les longues semaines de confinement, c'est l'objectif du plan annoncé aujourd'hui par le ministre Jean-Michel Blanquer.
Loin de nous l'idée de faire des vacances austères, c'est tout l'inverse. On n'a pas du tout l'intention de mettre tout le monde assis sur une chaise du 1er juillet au 30 août.
À la une encore, l'une des figures marquantes du terrorisme d'Al-Qaïda, éliminée donc par l'armée française au Nord-Mali cette semaine. Abdelmalek Droukdel était recherché depuis de longues années.
Souvent accusés d'égoïsme, les multimilliardaires du foot ont aussi un cœur, à l'image de l'avant-centre de Monaco, Keïta Baldé, qui a décidé de louer un immeuble pour héberger des migrants.
Grâce à Dieu, on vient tout juste de trouver un premier immeuble pour loger 90 travailleurs. Personne dans le monde ne mérite cette indifférence et cette difficulté à vivre.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Profiter de l'été pour rattraper le temps perdu durant le confinement, venir en aide aux élèves les plus fragiles, ceux qui ont décroché, c'est l'objectif du plan Blanquer présenté ce matin. La mise en place, Johanna Chabas, de ce que l'on doit désormais appeler les vacances apprenantes.
Oui, les ministres veulent absolument réduire les inégalités scolaires qui se sont creusées pendant le confinement, notamment dans les quartiers prioritaires où le gouvernement estime que 2 enfants sur 3 ne partent pas en vacances. Ils ont donc présenté une nouveauté, les colonies de vacances apprenantes. En plus des activités ludiques normalement proposées, les enfants auront du renforcement scolaire. Ça concerne 250 000 élèves. Ce matin, Jean-Michel Blanquer a voulu les rassurer. Ces colonies restent des vacances.
Vous pouvez faire de l'acrobranche en anglais, vous pouvez aller nager en ayant d'abord fait un programme informatique qui vous prépare à la plage, etc. Bref, les choses peuvent être assez astucieuses sur ce sujet. Et d'ailleurs, loin de nous l'idée de faire des vacances austères, c'est tout l'inverse. On n'a pas du tout l'intention de mettre tout le monde assis sur une chaise du 1er juillet au 30 août.
Les écoles vont aussi rester ouvertes cet été pour 400 000 enfants, 5 fois plus que les années précédentes, avec des cours le matin et des jeux ou du sport l'après-midi. Toutes ces mesures vont coûter 200 millions d'euros. Et le gouvernement veut également aider les parents avec des chèques vacances de 300 euros pour les salariés et les soignants mobilisés pendant la crise.
Merci Johanna Chabas. Ils étaient plus de 20 000 mardi devant le palais de justice de Paris, portés tout autant pour défendre la mémoire d'Adama Traoré en France que par l'émotion suscitée par le supplice de George Floyd à Minneapolis. Ils avaient prévu de se retrouver dans 3 rassemblements différents dans une zone quadrillée cet après-midi par les forces de l'ordre autour de l'ambassade des États-Unis à Paris et également autour du Champ de Mars où vous vous trouvez, Jean-Jacques Héry.
Oui, avec une foule qui a marché autour de ce Champ de Mars assez longuement avant de poser un genou à terre criant « Justice pour Adama ». Dans la foule, beaucoup de blancs et un panneau de ralliement « Black Lives Matter » porté par Byzance.
Adama Traoré et George Floyd, maintenant, représentent ce combat parce que les personnes qui osent fermer les yeux et se boucher les oreilles sur ce sujet ont décidé de les ouvrir, au moins un tout petit peu. Et clairement, on en profite pour se faire entendre, parce qu'on en a marre, on est fatigué. Des inégalités, des abus de pouvoir et de la brutalisation, simplement. Ça va être une blague déplacée, ou ça va être un refus d'emploi, ça va être un contrôle d'identité sur juste une personne, sur un groupe, juste parce que cette personne est de couleur ou noire.
Voilà, et puis la foule a à nouveau reposé le genou à terre plusieurs fois. Chacun était d'ailleurs portait un masque, et tout ça s'est fait sous les yeux des membres de la famille de toutes les personnes qui s'estiment victimes de violences policières, qui avaient appelé à ce rassemblement. Et au sein du cortège, beaucoup appelaient à continuer à manifester et appellent déjà de nouveaux rassemblements.
Jean-Jacques Herry, depuis le Champ de Mars, en direct sur Europe 1 à Paris. Ce soir, vous allez entendre également le porte-parole de la police nationale qui dénonce l'amalgame trop facile entre Minneapolis et Paris et qui réfute les accusations de racisme endémique au sein de la police française. Michel Laveau au micro de Chloé Triomphe pour Europe 1.
La police nationale n'est évidemment pas raciste. Alors, des faits posent question et nécessitent des enquêtes indispensables. Il est évident que le racisme est un fléau et que toute la lumière doit être faite quand le racisme peut être reproché à un policier à l'égard de la population ou encore à l'intérieur de services de police. Et justement, pour ces deux types d'actes racistes, les dispositifs sont transparents, ils existent. Si une personne s'estime victime d'actes racistes, elle peut déposer plainte en police, en gendarmerie si c'est le cas, devant le procureur de la République, et elle peut enfin saisir donc l'IGPN par un signalement par mail. Donc les dispositifs existent, ils sont à la disposition de chacun et chacune, et ils sont effectifs, c'est-à-dire que tous les signalements font l'objet d'un traitement et font l'objet toutes les suites sont données. Par exemple, l'IGPN propose beaucoup de sanctions et que beaucoup de policiers sont sanctionnés avec la plus extrême vigilance et la plus grande fermeté.
La mise au point de Michel Laveau, donc porte-parole de la police nationale, interrogée par Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et puis Wendy, la mobilisation est aujourd'hui planétaire pour dénoncer les conditions dans lesquelles George Floyd a été tué aux États-Unis. À l'heure où nous parlons, de nombreux manifestants sont recensés dans les rues de Washington. Il y a eu des manifestations également à Sydney et à Londres aujourd'hui.
À 19h40, on analysera ce grand mouvement social contre ces violences policières avec le politologue et spécialiste de la politique américaine, Jean-Éric Brana. À la une encore de ce samedi 6 juin, un joli coup de pied dans la fourmilière djihadiste réalisée par les forces françaises de l'opération Barkhane qui sont engagées au Sahel et qui ont donc éliminé mercredi dernier celui qu'on présentait, François Claus, comme l'émir d'Al-Qaïda au Sahel, Abdelmalek Droukdel.
Les forces françaises, Wendy, qui ont réalisé également un très joli coup, et c'est une révélation de Didier François, notre spécialiste du terrorisme sur Europe 1. Pratiquement au même moment, une opération était en cours dans la même zone et elle a permis d'arrêter un autre gros poisson du terrorisme islamiste, Didier François.
Oui, c'était dans la nuit du 18 au 19 mai. Un groupe commando a capturé en souplesse un terroriste un peu moins connu du grand public, mais qui n'en reste pas moins une figure importante du djihadisme dans le Sahel, puisqu'il s'agit du référent religieux de l'État islamique dans le Grand Sahara. Un certain Mohamed Rabat, dit Abu Aïcha, dont le rôle était essentiellement de recruter de jeunes islamistes, puis de les former pour les envoyer réaliser des attaques ou des attentats suicides. C'est lui qui légitimait les assassinats au nom de la religion, ce qui est une fonction importante dans les groupes terroristes, tant dans Al-Qaïda que dans l'État islamique, qui sont au Sahel comme ailleurs les deux principaux concurrents. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un vétéran du djihad comme Abu Aïcha, qui a envoyé tant de gens à la mort, s'est rendu sans combattre, ce qui permet d'ailleurs de l'interroger. Tout ça pour dire que l'élimination d'Abdelmalek Droukdel, c'est évidemment un succès capital dans la lutte antiterroriste, mais c'est aussi un peu la partie émergée de l'iceberg. En fait, les armées françaises enchaînent les succès militaires au Mali et dans tout le Sahel depuis la décision de renforcer l'opération Barkhane, prise en janvier par le président de la République lors du sommet de Pau. Et le temps a vraiment viré à l'orage pour les djihadistes, qui déplorent une centaine de morts par mois et qui sont maintenant sous forte pression, ce qui devrait permettre à terme aux forces africaines de se réapproprier le terrain.
Merci beaucoup Didier François, spécialiste du terrorisme sur Europe 1.
Il est 18h09, la suite du journal. François Claus, Wendy Bouchard.
Parlons maintenant de cette forte mobilisation sociale à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, où l'intersyndicale de Renault manifestait cet après-midi pour dénoncer la fermeture du site de Choisy-le-Roi.
Un site spécialisé dans le reconditionnement des moteurs et des boîtes de vitesse qui emploie 260 salariés et que la direction veut, dans le cadre de son plan de relance, relocaliser à Flins dans les Yvelines, suscitant dans le Val-de-Marne, Théo Manval, une très forte émotion cet après-midi.
Oui, avec des slogans « Non à la fermeture, on ne déménagera pas », référence au projet de la direction de transférer l'activité ici vers l'usine de Flins dans les Yvelines.
À Flins, faudrait 2 heures en voiture. 70 km le matin, 70 km le soir. C'est irréaliste.
Kamel est employé ici à Choisy depuis 1988.
C'est un site familial. Mon fils travaille, le grand-père à mon fils a travaillé là. On a acheté, on a nos femmes qui travaillent dans les environs. Donc c'est même pas possible. C'est un site qui fait de l'argent. Tous les mois, on nous dit qu'on fait de l'argent. Donc c'est pas normal. Confirme.
Incompréhension partagée par de nombreux élus dans le cortège, députés, le maire de Choisy.
Non à la fermeture de l'usine Renault.
Mais aussi salariés d'autres constructeurs venus en soutien comme Jean-Pierre Mercier, délégué CGT du concurrent PSA.
Les patrons aujourd'hui ont décidé de nous faire payer leur crise. Il n'y a pas d'autre solution que de se battre pour sauver sa peau.
La direction de Renault explique, on le rappelle, que la production automobile s'effondre et qu'il faut s'ajuster. Plus largement ici, ce sont des habitants de toute la ville, de tout le Val-de-Marne, qui ont fait le déplacement cet après-midi, comme Julien avec ses deux enfants.
C'est un département industriel, mais comme partout, il subit des choix financiers qui désindustrialisent.
Car en plus de Renault, aux alentours Sanofi ou Castorama menacent aussi de supprimer des postes.
Donc effectivement, moi j'ai deux enfants et on a des emplois et on craint pour l'avenir.
Et cette journée, en tout cas, n'est pas une fin, mais un début, promettent les syndicats, une nouvelle journée de manifestation est prévue le 16 juin prochain.
Merci Théo Manval.
Non, les footballeurs ne pensent pas qu'à leur carrière ou qu'à leur mirifique transfert. La preuve avec ce que vous nous racontez.
Oui, c'est l'attaquant d'origine sénégalaise de l'AS Monaco formé à Barcelone, Keïta Baldé, qui nous en offre un contre-exemple. Né près de Barcelone, ému par la situation des migrants en Catalogne, il s'est tout simplement mobilisé pour leur venir en aide, Henri de la Guérie.
Ils sont venus prêter main forte aux agriculteurs de l'arrière-pays catalan en manque de main-d'œuvre à cause du coronavirus. Toute la journée, ces migrants, originaires du Sénégal, cueillent des fruits pour 6,50 euros de l'heure, mais le soir, ils dorment dans la rue. Aucun hôtel n'accepte de les loger. Indigné par cette situation et devant l'inaction des autorités, l'attaquant de l'AS Monaco, Keïta Baldé, est né dans la région, remue ciel et terre pour leur trouver un toit.
Je suis là pour trouver des solutions et aider ces gens-là. Et grâce à Dieu, on vient tout juste de trouver un premier immeuble pour loger 90 travailleurs. Il y en a 200 en tout. Personne dans le monde ne mérite cette indifférence et cette difficulté à vivre.
Un deuxième immeuble est sur le point d'être loué jusqu'en septembre. Le footballeur formé au Barça paiera également tous leurs repas. Les associations locales dénoncent le racisme des hôteliers. La couleur de peau ne devrait pas être un problème, rappelle Keïta Baldé. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Et la leçon de Keïta Baldé fera peut-être Wendy quelques émules. On pense à Cristiano Ronaldo, dont on a appris notamment qu'il était devenu aujourd'hui le premier sportif à dépasser, tenez-vous bien, le milliard d'euros de revenus.
Eh oui, alors on attend la beauté du geste, comme on dit. Merci François Claus, qu'on aura le plaisir de retrouver demain à la présentation d'Europe
à
Midi.
Demain, oui.
Et pour le journal de 18h, la beauté du geste, le sport dans tous ses états. On en parle à partir de 20h dans Europe 1 Sport avec vous. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy, avec une invitée exceptionnelle en exclusivité sur Europe 1. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, dont oui. La parole est extrêmement rare. Un an après la Coupe du Monde, qui avait connu un très très grand succès populaire l'année dernière, elle revient, elle dit tout, elle a un peu changé et elle nous parle de ses ambitions.
Merci Lionel, à tout à l'heure, 20h sur Europe.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadB, produit de fabrication française. ArcadB vous présente la météo.
Avec Valérie Darmon et côté ciel, on est à peu près tous logés demain à la même enseigne, Valérie.
Et tout à fait, le temps n'est pas vraiment à la fête en dépit de cette fête des mers en ce dimanche. De la Bretagne et Hauts-de-France, le ciel est menaçant et pluvieux sous une fraîcheur accentuée par un vent de nord-ouest sensible près des côtes de la Manche. Des pays de la Loire aux Ardennes en passant par le bassin parisien. Après les éclaircies du début de matinée, les averses vont prendre le relais avec des températures de début octobre. Du nord de l'Aquitaine en remontant vers le Grand Est et la Franche-Comté, la journée se déroule au calme malgré des nappes nuageuse assez dense, mais il ne fera que 20 degrés sur le Bordelais dans l'après-midi. Et puis des Pyrénées à l'Occitanie, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, changement de programme, une perturbation remonte d'Espagne, apportant des pluies assez soutenues et ponctuellement accompagnées de coups de tonnerre. Et il y fera très frais, entre 14 et 19 seulement.
C'était la météo fraîche et pluvieuse de Valérie Darmon que l'on retrouve dans un bon quart d'heure sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec vous, Annie Bouchard. On va revenir sur ces manifestations en France malgré les interdictions.
Absolument. Et comment la police française peut accompagner, intégrer ces manifestations contre les violences et les injustices raciales? Notre invité nous en dit davantage. Alain Bauer, avec nous sur Europe 1.
18h16, la suite du grand journal du soir sur Europe 1 et au cœur de l'actualité, Wendy Bouchard, tous ces appels à manifester contre le racisme et les violences policières en France.
Absolument, Marlène, avec ces rassemblements aujourd'hui à Lille, Lyon, Bordeaux ou Paris. Paris, malgré l'interdiction pour raisons sanitaires, des manifestations fortes de sang sur lesquelles nous revenons avec vous. Bonsoir Alain Bauer.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers de New York, de Shanghai notamment. Ils étaient plusieurs milliers d'hommes et de femmes à refuser cet état de fait aujourd'hui en France. L'existence de certains policiers racistes, violents, c'est une réalité qui devient donc difficile à étouffer aujourd'hui.
Oh, je crois qu'elle n'a jamais été étouffée. Et il y a une dizaine d'années déjà, les questions se posaient dans un dispositif qui malheureusement a disparu, qui était la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Les mêmes questions se sont posées dans les années 70, 80, 90. La question, elle est plutôt dans l'évolution de la mentalité de la police nationale qui, elle, n'est ni raciste ni violente, mais dont l'esprit de corps fait qu'une petite minorité a pris en otage une immense majorité et que le fait de briser l'omerta est un processus lent et compliqué, mais il n'y a pas véritablement d'événements particuliers, si ce n'est que la réaction de la société, le fait que la police devient elle-même plurielle, pluraliste, diverse, amène à des progrès, et j'espère des progrès encore plus importants. Vous savez, c'est un peu comme quand on s'injecte un vaccin contre une maladie. Nous sommes en période de virus, donc pourquoi ne pas faire la référence? Il y a toujours un moment d'échauffement et le vaccin se bat contre la maladie. Et j'espère que le vaccin de ce qu'est les valeurs que la police républicaine a l'obligation de porter va réussir à éliminer ce petit virus qui est en son sein, oui, et qui avait pris en otage le reste de la population policière.
Face à une transparence rendue plus importante encore avec les réseaux sociaux, ces groupes WhatsApp, ces pages Facebook, ces vidéos révélées au grand public et traduisant ces messages racistes ou à provocation de haine raciale, les autorités ont été très réactives sur le sujet, le ministère de l'Intérieur, les garde-fous sont suffisants aujourd'hui, si l'on ajoute évidemment l'IGPN aujourd'hui qui fait aussi ce travail de contrôle à Bauer.
Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, je pense que les autorités ont tenté de préserver l'image de l'institution et ont avancé à pas compter très progressivement et beaucoup moins vite d'ailleurs que d'autres. Alors pour une raison simple, c'est qu'il y a une police unitaire en France et 18 000 polices par exemple aux États-Unis, une soixantaine en Grande-Bretagne. Et donc la diversité des progrès et des régressions, des résistances, des radicalisations internes est un sujet plus compliqué. Et donc on va plus lentement en France, même si on le proclame plus vite et plus fort. Le deuxième, il est dans la relation incestueuse que les inspections ont avec leur métier d'inspection. Elles sont très puissantes, très déterminées et très dures avec les policiers en interne et elles donnent toujours l'impression de les protéger dès lors qu'il y a une confrontation avec un civil à l'externe. Il manque aux inspections un outil de légitimité et de confiance avec la population. C'est un regard extérieur et il y a en France des outils, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la commission de contrôle des interceptions du renseignement, la CNCTR, bref, toute une série d'outils qui ont été mis en place, la CNIL, pour justement contrôler les activités des institutions de police, de sécurité et de renseignement. Il faut aller jusqu'au bout et imposer la présence d'un magistrat à la retraite, d'un représentant du défenseur des droits, dans toute enquête portant sur la confrontation entre des uniformes et des civils, ce qui permettrait de sortir de cette idée en général fausse, d'ailleurs, puisque l'inspection générale de police nationale sanctionne énormément en France, énormément, plusieurs milliers de sanctions par an, 10% de la fonction publique, 50% des sanctions. Mais elle donne l'impression de protéger les policiers et donc il faut sortir de cela. C'est une petite réforme rapide, efficace, mais il faut franchir le pas.
Donc ça nécessite un chantier, un vrai chantier comme le revendique aujourd'hui SOS Racisme par la voix de son président qui demande au gouvernement de reconnaître vraiment le problème du racisme au sein de la police et de lancer notamment la réforme que vous mettez en avant ce soir, Alain Bauer, l'une de ces pistes.
Je ne pense pas qu'il y ait du racisme au sein de la police. Je pense qu'il y a des policiers racistes, xénophobes, violents, dangereux, et que la police le sait, qu'elle les punit en général discrètement en interne, mais qu'elle n'arrive pas à assumer, y compris ce que vous rappeliez tout à l'heure, l'existence de ces centaines de milliers de smartphones qui rendent tout visible, tout présent, et la police essaye encore de faire comme si ça n'existait pas et comme si elle pouvait laver son linge sale en interne. Et je le dis, elle lave son linge sale de manière assez déterminée. Il faut qu'elle fasse ce dernier pas qui est retrouver la confiance du public et donc démontrer que quand il y a un doute sur une interpellation, une violence, bref, quoi que ce soit, d'abord elle est capable de montrer ses propres vidéos et il va falloir développer ce dispositif en permanence. Et deuxièmement, assumer le fait qu'elle punit, mais qu'elle punit avec un œil extérieur qui garantit la légitimité de la punition et de la mise en perspective de ce qui s'est passé avant les images et après les images, qu'on voit assez rarement.
Alain Bauer, est-ce qu'il faut aller plus loin? Je reprends cette enquête Cevipof qui avait été réalisée pour l'élection présidentielle en 2017, qui indiquait que plus de la moitié des policiers et que la moitié des militaires votaient Front National. Est-ce que ces chiffres-là, est-ce que ces enquêtes doivent conduire aussi à revoir le recrutement, le suivi psychologique d'un certain nombre de ces membres, de ces corps?
Alors d'abord, il faudrait se remettre en perspective. Les gens votent pour qui ils veulent. Et quand une organisation politique n'est pas conforme au droit, elle est interdite. Donc la question de savoir pour qui ils votent n'a aucun lien spécifique ou particulier avec la manière dont ils seraient ou pas racistes ou xénophobes. Il faut être très attentif à la manière dont on traite les électeurs. Je précise d'ailleurs qu'une partie des électeurs du Front National étaient des électeurs d'autre chose avant d'être des électeurs du Front National, comme vous pouvez le constater sur l'évolution de l'électeur du Front National ou du Rassemblement National. Donc je mets en garde contre cette facilité qui vise à considérer qu'il y aura un lien mécanique entre l'un et l'autre. D'abord, les gens, ils évoluent, ils changent et ils peuvent y compris s'améliorer. La deuxième partie, elle est qu'effectivement, il faut que les règles déontologiques, mais aussi les gestes techniques qui sont ceux des interpellations et qu'on apprend essentiellement en formation initiale, soient revus, revisités et parfois remis en cause. Je prends un exemple qui est celui de la police de New York qui avait une technique d'étranglement qui avait été interdite en 1993. 15 ans plus tard, il y avait encore des policiers qui s'en servaient et qui ont été punis pour s'en être servis, punis à la fois par la police et autrement. Et donc, il faut aussi continuer un processus où tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, régulièrement, on rappelle ce que sont les gestes à ne pas utiliser. Il y a les gestes barrières contre le virus et bien il y a les gestes à ne pas utiliser en matière d'interpellation.
Alain Bauer et son éclairage sur Europe 1. Très intéressant. Merci beaucoup, monsieur le professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers de New York et de Shanghai. Et puisque je parlais des SOS Racisme, l'association, avec de nombreuses organisations et personnalités, appelle à un nouveau rassemblement Place de la République à Paris, mardi prochain 9 juin à 18h. Merci.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1 et à suivre, Wendy, l'initiative d'une grande compagnie de croisière.
Avec un objectif pour l'été, faire revenir les touristes sur les fleuves français. On en parle juste après.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. On va parler maintenant de la relance du tourisme social, les espoirs du secteur sur l'été.
Et nous sommes ce soir avec le directeur e-commerce de la compagnie Croisi Europe, leader de la croisière fluviale en Europe. Bonsoir Lucas Schmitter.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour nous parler de votre famille qui a lancé le concept des bateaux hôtels. C'était il y a presque 45 ans. Ce sont des bateaux dont on imagine qu'ils sont restés à quai ces derniers mois.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait maintenant depuis les débuts de la crise sanitaire que nos bateaux sont à l'arrêt. Mais on commence depuis quelques semaines à percevoir la lumière au bout du tunnel et on espère reprendre notre navigation à partir de la mi-juillet.
Vous allez nous parler de votre parti pris, de vos bateaux, sachant que vous avez joué tout de même pendant cette crise la carte de la solidarité pour les soignants en mettant une partie de vos bateaux à disposition.
Oui, c'est vrai qu'on a mis deux bateaux à disposition, l'un à Paris, l'autre à Bordeaux. Toujours en collaboration avec les villes et les ports. Et donc on a pu effectivement apporter notre soutien et permettre aussi aux soignants d'éviter les temps de distance parfois longs pour rentrer chez eux et aller au travail en profitant du coup de notre bateau et de tout leur confort avec un bon dîner, un bon petit déjeuner et une belle nuit au fil de l'eau.
Voilà, ça c'était pour la solidarité. Maintenant, il y a le principe de réalité, l'économie et ce secteur en crise. Comment on se relève de 3 mois d'activité à l'arrêt, vous qui avez, avec Croisi Europe, 55 bateaux à travers le monde?
Ben écoutez, comme beaucoup, on a déjà pu profiter des nombreuses mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et évidemment profiter également du soutien de nos partenaires financiers. Après, on a essayé de rester dynamique et de se lancer très rapidement dans des offres commerciales intéressantes, puisqu'on a notamment aujourd'hui la possibilité de réserver sans payer d'acompte et d'annuler jusqu'à 2 semaines du départ sans aucun frais, ce qui est très disruptif dans l'industrie de la croisière, puisque généralement on paye au minimum 30% d'acompte.
Et en réorientant, Lucas Schmitter, votre activité, j'imagine, en France, en métropole, avec ces bateaux affectés au fleuve, sur la Seine, sur le Rhône, sur la Loire, la Gironde, le Rhin, c'est une activité croisière fluviale que vous mettez vraiment en lumière en France.
Tout à fait. C'est vrai que nous, on est donc une compagnie française avec effectivement une présence sur tous les fleuves de France, même la Loire, qu'on a moins l'habitude dont on a moins l'habitude de parler, puisque c'est un fleuve sauvage. On navigue avec un bateau à roue à aube qui peut naviguer dans très peu de tirs en eau. Parallèlement à ça, on a également des petites péniches de 22 passagers qui naviguent sur les canaux de France, donc dans des endroits encore plus authentiques. On va vraiment visiter des petits villages, des endroits de la France qui sont vraiment en dehors des axes touristiques plus connus. Et on a également 2 bateaux maritimes, dont la Belle des Océans, qui accueille 130 clients, oui. qui devaient naviguer au Canada sur le Saint-Laurent et qu'on a repositionné sur la Corse au départ de Nice cet été avec un très beau programme.
Taille humaine, c'est le mot que vous avez prononcé. Vous misez donc sur ces bateaux à taille réduite, de nature peut-être à rassurer aussi la clientèle qui aura peur sans doute du gigantisme à l'approche de l'été.
Alors, nous, c'est un argument qu'on a toujours utilisé parce qu'il faut savoir que la croisière fluviale n'a en commun avec la croisière maritime que le mot croisière. Sur les fleuves, on est limité par la hauteur des ponts, par la largeur des écluses. Donc nous, nos bateaux ont toujours accueilli en moyenne 130 clients et on a toujours utilisé ce terme de bateau à taille humaine puisque c'est notre vrai cœur de métier. Donc on est absolument incomparable avec les gros bateaux maritimes.
C'est avec des règles sanitaires qui seront à la hauteur de la distanciation physique.
Oui, tout à fait. On a mis en place un protocole sanitaire d'ampleur il y a aussi déjà plusieurs semaines et on est en ce moment même en train de finaliser un accord avec une société internationale de certification pour pouvoir aussi avoir justement ce label sanitaire en plus de l'ensemble des démarches qu'on aura mises en place. Donc l'ensemble des mesures sanitaires seront respectées et garanties sur l'ensemble de notre flotte à partir de cet été.
Et voilà l'initiative à la une, c'est cette CroisiEurope, ce tourisme fluvial qui va reprendre probablement des couleurs à partir du 15 juillet. Les réservations ont démarré chez vous, Lucas Schmitter, pour ceux qui ont des envies justement de calme, de silence et de fleuve sur ces bateaux. 130 personnes maximum. Merci de votre présence ce soir sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Vous écoutez le Grand Journal du soir avec Wendy Bouchard.
Et si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 6 juin. Bonsoir Sophie Dussault.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Il foule le pavé malgré l'interdiction de manifester. À Paris, des milliers de personnes sont rassemblées pour protester contre les inégalités raciales et les violences policières. Un hommage à George Floyd, mort asphyxié la semaine dernière aux États-Unis lors de son interpellation. D'autres rassemblements autorisés ont également eu lieu à Lille, Lyon ou encore Bordeaux, mais également tout autour de la planète. Rattraper son retard à l'école accumulé depuis le début du confinement et partir en colo. Jean-Michel Blanquer lance les vacances apprenantes. 1 million d'élèves vont en bénéficier. Ils refusent la fermeture de l'usine Renault de Choisy-le-Roi et l'ont fait savoir. Des centaines de personnes, salariés, élus et habitants, ont marché cet après-midi dans la ville de banlieue parisienne. Et puis elle a été mise en service il y a 4 jours seulement et déjà utilisée par 1 million de personnes. L'application de traçage Stop Covid remporte un franc succès.
Merci Sophie, à tout à l'heure pour le journal de 19h. Petit point météo avec un temps demain dimanche qui sera aussi maussade, on va dire, qu'aujourd'hui, Valérie Darmon.
Tout à fait, surtout l'après-midi, durant laquelle les averses seront plus fréquentes et parfois orageuses du nord au nord-ouest et au centre, ainsi que sur les Alpes du Sud et le nord de la Corse jusqu'au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel qui sera assez changeant, assez variable entre éclaircies et ondées. Côté température, les minimales oscilleront entre 5 et 13 jusqu'à 19 près de la Grande Bleue. Et dans l'après-midi, il fera 16 à 21 en général, jusqu'à 26 dans le sud-est et en Corse.
La météo signée Valérie Darmon et on refera un petit point à 19h10 à la fin du journal.
18h33, vous êtes bien à l'écoute du Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard. On refait l'actualité ce soir autour de ces malades du Covid-19 dont les symptômes persistent plusieurs semaines après le virus.
Avec notre invité, Dr Benjamin Davido, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous qui êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine et en studio avec nous ce soir sur Europe 1 pour nous parler de ce virus qui circule depuis presque 5 mois sur le territoire. Des médecins qui sont aujourd'hui en mesure de recenser, comme vous, un certain nombre de cas de malades qui n'arrivent pas à guérir plusieurs mois après. D'abord, est-ce qu'il y a un profil type de patient ?
Alors, c'est une très bonne question. On a l'impression, en effet, que globalement, ce sont surtout des femmes autour de la quarantaine, pour des raisons pour l'instant qu'on n'arrive pas clairement à expliquer, mais on sait que les femmes autour de la quarantaine sont souvent un âge pivot à laquelle on déclenche ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, on pourra en reparler, ce sont des maladies générales et dont les éléments déclencheurs sont connus pour être souvent des virus, des vaccins. On dit que c'est des déclencheurs environnementaux et donc ça n'y échappe pas, on a l'impression, avec le Covid-19.
C'est une femme d'ailleurs d'une trentaine d'années qui a créé ce hashtag après J20, après le 20e jour, pour fédérer les malades dans son cas parce qu'elle ne comprenait pas tous ses effets secondaires avec des difficultés respiratoires persistantes, la tachycardie, des brûlures au thorax, des pertes de mémoire, des phlébites. Est-ce que ce sont d'abord de vrais symptômes ou est-ce qu'il y a derrière d'autres pathologies peut-être nerveuse ou psychologique ?
Alors, il y a probablement une part psychosomatique, mais qui, je pense, est résiduelle. Alors, tout simplement, pourquoi il y aurait une part psychosomatique ? Parce que la médecine, c'est jamais 100%, mais aussi parce qu'il faut savoir que ça se passe dans des situations particulières. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont déclaré ces symptômes dans ce que moi, j'ai appelé le syndrome post-déconfinement. Et il y a aussi une volonté de la plupart de ces gens. On voit que ce sont des gens qui ont été, a priori, contaminés au tout début du confinement, c'est-à-dire par rapport au début de l'épidémie et qui donc n'ont pas pu consulter parce qu'à l'époque on était très occupés à l'hôpital comme vous le savez par cette vague épidémique
qui ont été malades ou très malades ou peu malades
et qui ont été peu malades et donc on a beaucoup de mal à retracer l'histoire de façon parfaite, c'est-à-dire que si on avait un test aujourd'hui qu'on pouvait faire et assurer, vous dire voilà, je vous dirais il y a 9 malades sur 10, on sait que c'est sûr c'est le Covid, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué et d'ailleurs chez des malades qui authentiquement ont fait le Covid, on sait qu'on a aussi des faux négatifs des tests et y compris des sérologies de l'ordre de 20%. Et donc, a posteriori, lorsqu'on arrive 2 mois, 3 mois après à l'hôpital ou voir un médecin, d'assurer que c'est ça ou c'est pas ça, c'est extrêmement difficile. Mais je pense sincèrement que pour 8 malades sur 10, il y a une authenticité de ces symptômes et qui semble très probablement rattachable au Covid-19 et à rien d'autre.
Covid persistant, syndrome post-Covid, vous parlez de ces femmes de 40 ans, peu malades aujourd'hui. Comment accompagner ces patients, les aider ? Est-ce qu'on traite les maladies les unes après les autres ou est-ce qu'on peut les adoucir différemment ?
Alors vous avez raison, je pense qu'il faut être clair. D'abord, le Covid-19, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de référence. Il n'y a rien de codifié. Vous savez comme moi, combien de temps on a parlé de tout un tas de traitements, dont la chloroquine. Ça semblerait complètement incongru de dire à ces gens-là qu'on a un traitement miracle.
On traite les effets secondaires.
Absolument. Et arrivant au stade où il se présente, en fin de compte, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est probablement plus les effets entre guillemets secondaires du Covid-19, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de contagiosité chez ces malades-là. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'inflammation, caricaturalement. Et d'ailleurs, tous les malades que j'ai vus, leur prise de sang était strictement normale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de signe d'infection active.
Mais donc, l'organisme continue de se battre.
Et donc l'organisme continue de se battre, c'est probablement une espèce de réaction, si vous voulez, retardée. Hein. C'est-à-dire que la machine essaie de se remettre dans l'ordre. Mmh. Et donc le traitement, clairement, ne fait pas appel à quelque chose d'anti-infectieux. Ça, c'est la première des choses. Et donc il faut qu'on travaille probablement à mieux comprendre ce qu'on appelle dans le jargon médical la physiopathologie, c'est-à-dire comment est-ce que ça marche, pour si on veut pouvoir proposer des traitements à distance. Et il faut clairement un accompagnement, un soutien psychologique, déjà les écouter, ces gens-là, et traiter les symptômes, tout simplement, parce que vous avez cité un certain nombre de symptômes. Il y a des gens, tout simplement, qui se plaignent de douleurs chroniques. Et sur ces douleurs chroniques, on peut proposer, tout simplement, des traitements antalgiques, des douleurs articulaires, des médicaments qu'on connaît. Et donc, c'est du cas par cas. Il n'y aura pas un traitement qui serait codifié pour tout le monde.
Mais vraiment, il faut prendre au sérieux ces douleurs.
Très clairement.
Et d'ailleurs, aussi, parfois beaucoup, hein, parce que c'est difficile d'avoir une fatigue qui traîne comme ça quand on est jeune pendant 2 ou 3 mois.
Absolument. Et il y a un exemple très concret qui fait penser que c'est tout à fait possible, leurs symptômes et la réalité de cette douleur. C'est peut-être, vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler, ce qu'on appelle le syndrome post-chikungunya. Il y a eu en 2006 une épidémie très importante de cette maladie qui est un cousin de la dengue, une arbovirose, sur l'île de La Réunion. Et on s'est aperçu justement après 3 mois que des gens se plaignaient de syndromes douloureux, chroniques, avec une grande fatigabilité. Donc quelque chose qui ressemble, ce n'est pas du tout le même virus, mais c'est quelque chose qu'on connaît, ces syndromes post-infectieux d'origine virale. Et la particularité de ce qui s'est passé avec le Covid-19, c'est qu'on a eu un nombre incommensurable de malades au même moment, ce qu'on ne voit jamais finalement en infectiologie, puisqu'on voit des malades sur toute une année, ce qui explique qu'on voit aujourd'hui probablement cette partie cachée de l'iceberg. Et donc, il y a un vrai travail de compréhension, de soutien pour ces malades-là, et qui en ont besoin, et pour lequel il y a une demande. Et je pense que la première chose aujourd'hui, c'est de les réassurer, puisque globalement, on sait que après un mois, les gens ne sont plus contagieux. Et ça, c'est souvent la première demande des gens.
Il n'y a pas de Covid chronique, quoi.
Absolument. Ces gens-là qui se plaignent de ce Covid chronique, il n'y a pas de contamination chronique. En tout cas, ce n'est pas décrit. Hein. Les Chinois ont fait des études très sérieuses où ils ont mis en culture le virus qu'on ne fait pas en routine chez ces gens-là, sur laquelle la PCR pouvait rester positive à plus d'un mois. On sait que la PCR, elle peut rester positive. Et le virus ne peut pas être mis en culture. C'est-à-dire que c'est du virus mort.
D'accord.
Donc ça, c'est la première des choses, que les gens, ils sont inquiets de ça. Et puis, en effet, vous l'avez dit, il faut les accompagner, les rassurer. Et attendre cette date fatidique, même si c'est parfois cruel, de 90 jours, parce qu'on sait que les maladies chroniques se déclenchent au bout de 90 jours. Et après, c'est probablement là le moment où il faut faire ce qu'on appelle un bilan auto-immun, un bilan d'immunité, pour voir si la machine ne s'est pas réglée, et donc s'est déréglée de façon pérenne. Et à ce moment-là, adapter plus ou moins les traitements avec des rhumatologues, des internistes, les gens qui connaissent ces maladies chroniques du soin.
Mais ce qui est intéressant aussi avec vous, docteur Benjamin de Davido, de voir, c'est que à la fois intéressant et inquiétant, hein, il y a une humilité par rapport à ce virus dont on a appris, qu'on a appris à comprendre au fur et à mesure qu'il progressait, et qu'aujourd'hui on constate bien qu'il dérègle totalement les organismes. Vous parliez de machine tout à l'heure, c'est un virus très dur.
Alors, je ne sais pas s'il est plus dur que les autres virus, finalement, parce que comme je l'expliquais, c'est un effet de loupe, si vous voulez, ce qu'on voit actuellement.
Sur 10% des patients, à peu près. Hein.
Ouais, c'est ça, entre 5 et 10%, absolument. C'est extrêmement dur d'avoir un chiffre exact, parce que y a la plupart de ces gens, plus de la moitié, n'ont pas été testés, comme je vous l'expliquais, et donc c'est déclaratif.
Oui.
Mais il y a probablement, encore une fois, une sémiologie qu'on ne connaissait pas. On a appris avec le virus tout un tas de symptômes, comme vous savez, les engelures, l'anosmie, la gueusie, la perte de l'odorat, la perte du goût qu'on ne connaissait pas du tout. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir que probablement il y a des formes persistantes, en tout cas sur le fait de la symptomatologie. Je ne parle pas du virus, donc vous avez raison, il faut être extrêmement humble. Il faut continuer à comprendre. Mais des syndromes post-infectieux sur des virus, on en connaît. La mononucléose peut donner des formes prolongées et chroniques. Et il faut rassurer, je pense que c'est vraiment la première étape, parce qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse par rapport à ce Covid intrinsèquement.
Complètement.
Et ça, c'est une chose. Et c'est, même aussi, je peux le comprendre, d'un point de vue, si j'étais patient, c'est aussi angoissant de se dire que c'est un nouveau virus et que les médecins ne savent pas très bien de quoi il est fait. Et pour agir demain, c'est vrai qu'il va falloir aussi qu'on ait une certaine humilité, prendre du temps. Et c'est ça, je pense, qui est important aujourd'hui.
Benjamin Davido, docteur et infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Mais votre présence nous démontre aussi la nécessaire prudence face à ce virus, même si l'épidémie est dite contrôlée aujourd'hui par les scientifiques en France. Merci beaucoup,
cet
éclairage ce soir sur Europe 1. Merci.
Il est 18h41 avec nous. Dans un instant, Wendy, un violoncelliste.
Oui, un été pas apprenant, mais musical pour Gauthier Capuçon, notre invité. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir sur Europe 1. Et comme chaque samedi sur Europe 1, alors que la plupart des artistes ont dû reporter leur tournée à septembre ou à janvier prochain, votre invité part en campagne.
Oui, Marlène en campagne avec son violoncelle, en campagne musicale sur les routes de France. Bonsoir Gauthier Capuçon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vient de vous entendre ici avec cette Andante cantabile de Tchaïkovski, je crois. Et derrière vous, le piano d'un ami, c'est Jérôme Ducrot qu'on entend jouer.
Oui, Jérôme Ducrot, c'est un merveilleux musicien, pianiste, compositeur, arrangeur. Et c'est surtout un très vieux complice puisqu'on joue ensemble depuis quasiment 25 ans.
Vous auriez dû donner d'ici à la fin du mois d'août 70 concerts, notamment avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Tous ces concerts, ces grandes formations sont reportés. Mais vous, Gauthier Capuçon, vous n'avez pas voulu vous résoudre, si j'ose dire, à un été silencieux. Vous avez donc proposé une campagne étonnante un peu partout en France.
Oui, c'était une manière pour moi d'essayer d'imaginer quelque chose que beaucoup d'autres musiciens ont fait, c'était d'essayer de recréer un espace où on puisse s'exprimer en plein air et en accord avec les conditions sanitaires. Et là, on a eu des signaux magnifiques de réouverture de salles de concert, de théâtre. Mais bon, ça va prendre encore un peu de temps parce que on sait bien qu'on peut pas rouvrir et refaire marcher des spectacles comme ça du jour au lendemain. Donc c'était donner un peu un élan aussi et puis d'apporter la musique là où on le pourrait.
Et donc vous avez décidé d'y aller piano en proposant vos services aux municipalités pour notamment aller jouer sur les places des villages.
C'est-à-dire que suivant la taille de la ville ou du village et puis de la possibilité d'avoir un piano ou non, parce qu'il y a des villes qui vont pouvoir avoir un piano, et dans ce cas-là je serai avec Jérôme Ducrot qui sera là réellement. Et pour les villes et les villages qui ne pourront pas, ça sera finalement un prolongement, une prolongation de ce qu'on a fait pendant le confinement, donc où effectivement je jouerai avec son accompagnement qui sera sur mon iPad.
Et se dire qu'on peut ramener un peu d'âme justement dans ces lieux qui ont été privés de culture, de mélange des genres, cela vous tient à cœur dans la gratuité de ces spectacles, hein, c'est vraiment aussi le symbole que vous mettez en avant.
Je pense que c'est bien que ça soit offert aux Français, ce sont les collectivités qui l'offrent et c'est vrai qu'on a tous été, alors nous on a été privés de scène, tout le milieu de la culture, et puis les Français ont été privés, il y a eu cette période d'abstinence de culture, même si les réseaux sociaux ont pu bien sûr mettre les artistes en lien avec leur public, mais c'est vrai que c'est une manière de resserrer ce lien et de le recréer dans la réalité.
D'autant qu'on en parlait la semaine passée dans ce grand journal sur Europe 1, beaucoup de festivals, le plus grand nombre d'ailleurs de ces festivals sont annulés cet été. Voilà pourquoi il est important d'avoir ces moments ensemble. Vous qui avez participé également, Gauthier Capuçon, au disque collectif Symphonie pour la vie au profit des hôpitaux, aux côtés d'Yvan Cassard, de Nathalie Dessay, de Philippe Jarouski. Ce disque sera disponible physiquement vendredi prochain. Les fonds seront reversés à la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris.
En soutien aux soignants, mais c'est aussi l'énergie qu'on a mis dedans et qu'on envoie finalement, cette énergie solidaire. En fait, c'est ça le message qui nous a semblé très important à tous. Et puis, on s'est retrouvé pour ce disque, alors encore une fois avec le respect des gestes barrières et des conditions sanitaires, mais c'était la première fois qu'on refaisait de la musique en tout petit groupe, bien évidemment, parce que le dernier titre de l'album, qui est la chanson La Quête de Brel, qu'on a tous enregistré en fait en re-re, donc avec les casques, on l'a jamais joué ensemble, cette pièce est assez unique, mais c'était vraiment un moment fort de se retrouver pour partager cette énergie et cet élan solidaire ensemble.
Ouais, être ensemble sans vraiment l'être, je voudrais vous faire réagir à ça, parce que vous, Gauthier Capuçon, comme votre frère Renaud Capuçon au violon, comme tant d'artistes, musiciens et chanteurs, se sont beaucoup appuyés sur le digital. Alors ça a permis de sauver justement ce lien, mais est-ce que vous êtes de ceux qui vous battraient pour retrouver la scène, le vrai contact public, ou qui pourrait aller vers cette facilité aussi d'une culture bien qui s'exporte plus facilement avec l'aspect digital?
Oui, alors je pense qu'il faut être prudent. Tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux et aussi avec les moyens du bord, parce que ces vidéos, moi, je les ai faites chez moi avec mon iPhone.
Bien sûr,
il faut rappeler que c'était un contexte particulier. Et moi, je l'ai fait pour garder ce lien et pour avoir finalement ce fil tous les jours de culture, de musique. Il y avait des artistes, des comédiens qui lisaient des textes. Enfin, c'était merveilleux. Il y avait une créativité assez incroyable. Et tout ça s'est fait, évidemment, de manière gratuite, parce que c'était important aussi d'être là pour accompagner. Maintenant, la phase du déconfinement est entamée. C'est différent. Il faut rappeler que les artistes doivent gagner leur vie, tout ce milieu de la culture qui a été extrêmement impacté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et il va falloir faire très attention justement à la gestion du numérique maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans notre domaine, ne serait-ce que pour les droits d'auteur. Bon, on le sait, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il va falloir vraiment se pencher sur la question tous ensemble. Et rien ne remplacera jamais, bien évidemment, la scène et le rapport direct que l'on a avec le public.
Gauthier Capuçon, vous étiez notre invité. Je précise que pour votre été en itinérance, votre initiative, si vous êtes intéressé, eh bien vous pouvez écrire à Gauthier Capuçon, office@gauthiercapuçon.com. Je donne absolument toutes les modalités et vous partez en famille, hein, vous l'avez souligné, avec votre femme, vos deux filles, votre violoncelle, à travers les villes et les villages. Vous évoquez la quête de Jacques Brel et je voudrais qu'on se quitte avec un autre grand classique, l'hymne à l'amour, que vous avez interprété il y a quelques semaines pour les Français sur les réseaux sociaux, notamment Gauthier Capuçon. Bel été à vous. Hymne à l'amour, interprété par le violoncelliste Gauthier Capuçon. Il a raison de me reprendre. Hymne à l'amour et non pas l'hymne à l'amour, notre spécialiste de la chanson française déjà installé. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Pour ces artistes qui ont chanté pour leurs enfants.
Ah bah oui, il y en a quelques-unes.
Les femmes, bien sûr, à la veille de la fête des mères. À tout de suite.
h 51, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est la suite du Grand Journal du Soir. Place à la musique avec notre rendez-vous, une chanson dans la tête.
La culture, les anecdotes que nous offre chaque week-end Fabien Lecoeuvre. Demain, c'est donc la fête des mères, Fabien, et vous avez une bonne idée. Écoutez des mamans chanteuses qui ont dédié un titre à leurs enfants.
Exactement, Wendy, puisque toutes ces artistes devenues mamans et qui ont fait, en tout cas, de ce bonheur, on va dire, une chanson, elles sont nombreuses, toutes générations confondues. Souvenez-vous, en 2004, avec ce titre de Jennifer.
Je ne savais pas que Jennifer avait donc dédié cette chanson à son enfant.
Absolument, chanson de Jennifer, première gagnante emblématique de la Star Academy, bien sûr, parue en juin 2004. Sur le deuxième album de la chanteuse, elle est restée quand même 22 semaines dans le top 50 succès, hein. Avec ce titre. Et cette chanson est dédiée à son fils Aaron, qui lui est né le 5 décembre 2003, de sa relation avec le compositeur Maxime Nucci, brillant compositeur d'ailleurs. Et un beau témoignage d'amour d'une maman pour son fils, à qui elle dit en fait... Pour toi, je ne cesserai jamais de marcher. Ma révolution porte ton nom.
Eh bien voilà, Jennifer l'a eu. Une autre naissance tant espérée. Nous sommes en 2001. Cette fois, c'est le premier enfant de Céline Dion et de René Angélil.
Et oui, après plus de 300 millions d'albums vendus, la naissance par PMA, procréation médicalement assistée, bien sûr, de René Charles, a été pour la chanteuse un immense bonheur immortalisé par une chanson.
Je lui dirai qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément, que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps.
On dirait du Goldman derrière, non?
Ah, complètement, c'est une chanson justement en 2003 intitulée « Je lui dirai », écrite par Jean-Jacques Goldman, absolument, voilà. Wendy, et produit par Eric Benzi. Alors ce titre est le troisième extrait de l'album « Une fille et quatre types ». Et sur la pochette du single, il y a une très belle photo de Céline et de René Charles, bébé.
Écoutons maintenant sur Europe 1 cette balade pour un sourire et pour l'enfant de deux idoles.
Et oui, l'enfant de deux idoles, David Hallyday, ne peut pas échapper au flash des médias et se retrouve très souvent en photo dans de très nombreux magazines. Et en 1966, bien sûr, sa maman lui consacre une première chanson, balade pour un sourire.
Je t'ai attendu presque toute une année et maintenant tu es là. Si fragile encore que j'ai peur de bouger quand tu t'endors dans mes bras.
Et la voix si fragile aussi de Sylvie Vartan, c'est incroyable.
Adorable, et c'était pour la naissance du premier fils donc de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday.
1966, hein, ouais.
Absolument, c'est un véritable événement en France. Un an et quatre mois pour avoir épousé Johnny, Sylvie Vartan devient maman pour la première fois. C'était le 14 août 1966. À 21h40, très précise.
J'aime bien les registres des naissances que vous tenez.
Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, le chanteur est en pleine tournée mondiale. Oui. Depuis le mois de janvier 66, il parcourt l'Allemagne, la France, l'Afrique, le Canada et bien évidemment l'Europe. Johnny se retrouve d'ailleurs à Milan, en Italie, lorsque son ami Carlos, notre ami, le copain, le chanteur Carlos, le prévient à la fin de son show de la naissance de son fils.
Qui est l'attaché de presse de Sylvie Vartan à l'époque.
Le secrétaire, entre autres. Oui. Et à seulement donc 23 ans, le jeune rocker devient donc pour la première fois père de famille. Le lendemain, Johnny reprend l'avion pour Paris et à 9h15 du matin,
précisément, Wendy, je sais que vous aimez ces précisions, il se rend à la maternité du Belvédère à Boulogne-Billancourt pour découvrir son fils qui est appelé David Michael Benjamin Smet, un adorable bambin qui pèse 3,5 kg.
Autre précision à la clé, merci beaucoup. Alors restons dans les balades avec celle offerte par Vanessa Paradis à sa fille Lily Rose.
Oui, en fait, on va dire que la naissance de sa fille Lily Rose le 27 mai 1999 a inspiré à Vanessa Paradis une chanson qui s'appelle La balade de Lily Rose, composée par Vanessa Paradis elle-même et qui figurait sur son quatrième album Bliss et sur lequel il y avait un énorme tube comme celui-là.
Deal qu'elle eut avec Johnny Depp.
Eh oui, Lily Rose est le premier enfant que Vanessa a eu avec le célèbre acteur américain Johnny Depp. Elle est devenue aujourd'hui une très belle jeune femme, actrice et mannequin pour Chanel notamment. Et Vanessa a aussi un garçon, Jack John Christophe, n'oublions pas, qui était né en avril 2002. Alors, autre style, Wendy, puisque vous adorez ça, avec Axel Red et cette chanson, déclaration d'amour à sa fille Janelle, à laquelle elle raconte la vie qu'elle lui souhaite, comme toutes les mamans.
C'est l'occasion de redécouvrir un certain nombre de titres ce soir avec vous. Hein.
Des titres qu'on avait oubliés.
Mais qui ont du sens pour ces mamans artistes, évidemment.
Et puis je voudrais terminer pour vous, Wendy, justement avec Zazie, qui par deux fois a écrit sur la maternité.
Avant de devenir maman, d'abord, elle consacre une chanson, c'est ça, à sa fille?
Absolument. Elle est, avant de devenir maman, le 16 août 2002, elle sera maman d'une petite Lola. Et Zazie avait consacré donc une chanson, La preuve par trois, ça s'appelle, à son désir de maternité, en attendant de retrouver l'homme avec qui le faire. Par la suite, elle a refait une chanson pour sa fille en 2003. C'est s'appelé Lola majeure.
Très belle chanson. Lola majeure, très très belle chanson de Zazie. Hein.
Et oui, voilà Wendy, pour ces belles chansons de maman chanteuse, car demain je vous parlerai cette fois de toutes les chansons qui ont été créées pour les mamans et à l'occasion de la fête des mères.
Pour toutes les mamans?
Ah, toutes les mamans.
Donc on entendra.
Oui.
Est-ce que je peux faire une petite rectification?
Oui.
Divine Idylle n'est pas sur l'album Bliss.
C'est pas vrai.
Non, parce que c'est l'album d'après Divine Idylle.
Donc elle était bien inspirée en tout cas, elle était déjà bien inspirée.
J'ai beaucoup écouté ses albums, alors
c'est une très belle chanson.
Alors on a confondu avec un coffre.
Même c'est juste après, c'est l'album d'après. Voilà.
Marlène Duret, les précisions et la chronique chaque samedi, chaque dimanche de Fabien Lecoeuvre, 18h50. On vous retrouve donc demain, cher Fabien, mais vous restez avec nous pour ce grand journal qui se poursuit, qui revient dans un instant.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir.
Et c'est l'heure du journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
C'est pas normal que quand je me balade dans la rue avec des Noirs ou des Arabes, on se fasse arrêter, alors que les Blancs qui marchent à côté de nous, on leur demande pas leur papier d'identité. C'est pas normal qu'en 2020, ça se passe encore comme ça.
La rue mobilisée contre le racisme et les violences policières à travers le monde, en France également, où la vague d'indignation a pris de l'ampleur.
Des vacances apprenantes pour 1 million d'élèves cet été, notamment ceux des quartiers. L'objectif est de s'amuser et d'éviter surtout le décrochage scolaire.
Le 76e anniversaire du débarquement en Normandie, des cérémonies à minima en raison de la pandémie, mais beaucoup d'émotions.
C'était plus intime, c'était incroyable. Chaque fois que je viens, c'est toujours étonnant.
Et puis après 3 mois de fermeture, le château de Versailles a rouvert au public aujourd'hui. Peu de touristes, l'occasion d'une visite très agréable de la demeure royale.
Il y a des détails qu'on prend le temps de regarder dans les peintures comme dans les sculptures. Malheureusement, quand il y a trop de monde, c'est moins agréable et c'est pas appréciable, quoi.
On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 20h dans ce grand journal. On écoute ensemble le monde changer.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Ce monde qui change avec des milliers de personnes qui ont défilé aujourd'hui, par exemple, partout en France, mais sur la planète entière d'ailleurs, pour dire non aux inégalités raciales, non aux violences policières, Sophie Tussaud.
À Londres, Sydney, Montréal, des milliers de personnes ont rendu hommage à George Floyd, ce noir américain de 46 ans, mort asphyxié par un policier blanc aux États-Unis la semaine dernière. En France, des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes, comme à Paris, où ils avaient été pourtant interdits par la préfecture. Jean-Jacques Harry, vous avez suivi cette manifestation. Comment la foule a-t-elle protesté ?
Eh bien, ce soir, il y a d'abord eu les slogans. Laissez-nous respirer, scande la foule. Et puis ensuite, il y a eu les gestes lorsque les manifestants, après avoir effectué plusieurs fois le tour du Champ de Mars, ont posé un genou à terre pour rendre hommage à George Floyd et à travers lui à toutes les victimes des violences policières, explique Marc.
C'est d'abord pour un geste pour signifier que l'ensemble de l'humanité, surtout pour que notre pays, prenne conscience du drame qui se joue non seulement aux États-Unis, mais également chez nous, ici en France.
Au sein du cortège, plutôt jeune, hein, des blancs, des noirs, des visages en colère et parfois tristes aussi, comme celui de Thieno. Mon frère a été victime de violences policières, dit-il.
Moi-même, je suis le grand frère de Ibrahim Abba, qui est décédé le 6 octobre. Donc voilà, 6 mois maintenant que nous n'avons vu aucune vidéo, alors que le jour de l'accident, il y avait 3 caméras présentes sur les lieux du drame. Est-ce que ça, c'est normal ?
Vous l'entendez, il y avait de la colère ici, même si tout le monde est resté extrêmement calme. La manifestation est actuellement en train de se terminer, mais il reste encore du monde rassemblé à une extrémité du Champ de Mars et qui continue à crier « Laissez-nous respirer » face à un cordon de gendarmes mobiles.
Merci Jean-Jacques Herré dans la manifestation parisienne. Parmi les villes qui autorisaient le rassemblement, il y a Lyon, Bordeaux ou encore Lille. Lille où la manifestation est également en train de se terminer, Maximilien Carlier.
Oui, effectivement, Sophie, la foule se disperse. Il y avait, il y a quelques minutes, un nuage de fumée, place de la République. Quelques tensions en fin de manifestation, jet de projectiles, gaz lacrymogène, charge de CRS pour empêcher l'accès aux rues commerçantes du centre-ville. Une station de métro a dû être fermée. Mais c'était dans l'ensemble un défilé assez calme, ponctué par quelques arrêts. Des manifestants genoux au sol, poings levés en signe de protestation. Des messages sur des affiches en carton, Black Lives Matter, pas de justice, pas de paix. Beaucoup de jeunes, d'étudiants, comme Karim à 19 ans.
On est venu pour lutter contre les violences policières et dénoncer le racisme de la police. C'est pas normal que quand je me balade dans la rue avec des noirs ou des arabes, on se fasse arrêter, alors que les blancs qui marchent à côté de nous, on leur demande pas leur papier d'identité, on leur demande pas où ils vont, on leur demande pas de se justifier pourquoi ils sont là en fait. Et c'est pas normal qu'en 2020 ça se passe encore comme ça.
Et environ 1500-2000 personnes ont défilé à Lille, une manifestation qui n'a pas d'organisateur, ce sont surtout des messages relayés sur les réseaux sociaux.
Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1.
À la une également, le ministre de l'Éducation qui débloque une enveloppe de 200 millions d'euros pour lutter contre le décrochage scolaire et qui crée le concept officiellement donc de vacances apprenantes.
Oui, il s'agit de colonies de vacances où les élèves vont pouvoir s'amuser tout en rattrapant le retard accumulé depuis le début du confinement. Jean-Michel Blanquer en a fait l'annonce ce matin. 1 million d'enfants vont pouvoir en bénéficier, notamment ceux qui viennent des quartiers prioritaires. Écoutez Julien de Normandie, ministre chargé de la Ville et du Logement.
Le printemps, il a été particulièrement difficile, particulièrement triste. Et l'objectif qui est le nôtre, c'est de faire que cet été soit un été heureux, un été d'opportunités. Ces colonies apprenantes, l'objectif est de faire en sorte que 250 000 jeunes de la République puissent quitter l'endroit où ils habitent pour aller découvrir de nouveaux horizons, mais en même temps associer activités sportives, culturelles et éducatives. Et parmi ces 250 000 jeunes, on s'est fixé un objectif très ambitieux, c'est que 200 000 viennent des quartiers prioritaires de la ville. Parce que dans ces quartiers, le confinement a été particulièrement difficile. Parce que dans ces quartiers, parfois, le soutien, la continuité éducative, comme on l'appelle, elle est plus compliquée.
Julien de Normandie, ministre du Logement, au micro européen de Johanna Chabas.
Il est 19h05, la suite du journal Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Nous sommes le 6 juin et en raison de la crise sanitaire, c'est un D-Day très particulier qui s'est déroulé aujourd'hui sur les plages du débarquement.
Les cérémonies ont été réduites au maximum pour éviter une propagation du virus. Malgré tout, à Vierville-sur-Mer, dans le Calvados, devant Omaha Beach, le 76e anniversaire du jour le plus long a été célébré dignement et avec beaucoup d'émotion. Le reportage de Charles Guillard.
C'est une très belle cérémonie. C'est un format différent, mais pas au rabais.
C'était probablement la plus petite cérémonie de l'histoire pour commémorer la plus grande opération militaire du XXe siècle. Mais pour Jean-Marc Lefranc, le président du comité du débarquement, ce 76e anniversaire du D-Day a été dignement célébré.
Les autorités vont maintenant honorer les morts.
Fanfare enregistrée, pas de public ni de vétérans, le rendez-vous n'avait certes pas l'éclat habituel, mais le passage de la patrouille de France lui a redonné un certain relief. Pour Jamie McCourt, l'ambassadeur des États-Unis en France, l'émotion restait intacte.
C'était plus intime, c'était incroyable. Chaque fois que je viens, c'est toujours étonnant.
Étonnant aussi l'appréciation des règles sanitaires de la quarantaine d'officiels présents, dont les 10 ambassadeurs, tous réunis sur une petite place face à la mer. Aucun d'eux ne portait de masque. Heureusement, finalement, que les vétérans n'étaient pas conviés. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
Nous avons toujours beaucoup d'émotions à rencontrer les vétérans. Cette année, eh bien, je crois que la raison a fait que nous avons préféré ne pas les exposer. Donc je leur donne à eux aussi rendez-vous l'année prochaine.
Et en espérant en effet que la guerre contre le virus sera elle aussi gagnée d'ici là. Omaha Beach, Charles Guyard, Europe 1.
Malgré les débats suscités par sa création, l'application de traçage Stop Covid remporte, Sophie Tussaud, un franc succès.
En seulement 4 jours d'existence, elle est déjà utilisée par 1 million de personnes. Stop Covid permet à ceux qui l'ont téléchargé d'être prévenus dans les 2 semaines en cas de contact avec un autre utilisateur contaminé au coronavirus. Pas de résultat encore, mais selon le gouvernement, elle est très utile dès les premiers téléchargements, Caroline Baudry.
Oui, et c'est aussi l'avis de nombreuses personnes qui ont installé l'outil toujours en tête des téléchargements sur les plateformes Apple et Android. Comme Vincent, 55 ans, il habite dans l'Hérault et pour lui, utiliser l'application est une évidence.
C'est en tout cas prendre soin des autres tout en prenant soin de soi. Plus on est nombreux, et mieux ça fonctionne. J'étais presque étonné par sa simplicité. D'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement simple, je me disais, mais on va me demander plus, on va me poser des questions. Non, et finalement, c'est simple comme bonjour.
Simple et rapide, selon lui, il a seulement dû activer le Bluetooth de son téléphone, puis l'application, sans rentrer d'informations. Il recevra alors une alarme s'il a croisé un autre utilisateur contaminé à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes. Une application particulièrement utile donc pour les personnes vivant en milieu urbain, qui prennent les transports en commun notamment, a affirmé ce matin Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique. A noter que selon certains chercheurs, l'application sera efficace si elle est utilisée par au moins 60% des Français.
Caroline Baudry. Nouveau symbole du déconfinement aujourd'hui en France, le château de Versailles a rouvert ses portes au public. La demeure royale a profité des 3 mois de fermeture, d'ailleurs, pour se refaire une beauté.
Oui, le château de Versailles, c'est d'ordinaire 8 millions de visiteurs à l'année, mais avec le coup d'arrêt porté au tourisme en raison de la pandémie, cette réouverture est l'occasion pour ceux qui ne peuvent jamais se rendre sur place de s'offrir une visite. Sophie Echen.
C'est très agréable, il y a moins de bruit, on se bouscule pas, on peut prendre ses photos tranquillement. Ça, pour moi qui aime faire des photos, c'est formidable.
Quand Catherine a su que le château allait rouvrir ses portes aujourd'hui, elle a tout de suite réservé son créneau. Une occasion unique de redécouvrir les lieux sous un autre angle, se réjouit-elle.
En plus, on arrive dans un lieu qui a été bichonné. C'est presque un endroit vierge de nouveau. C'est très plaisant de le savoir et de le visiter.
Le château accueille 500 visiteurs par heure contre plus de 4000 par heure avant le confinement. Moins de monde et donc moins d'encombrement. Ça laisse le temps de mieux apprécier, constate Franck.
Il y a des détails qu'on prend le temps de regarder dans les peintures comme dans les sculptures. Malheureusement, quand il y a trop de monde, c'est moins agréable et c'est pas appréciable, quoi.
Pour éviter de se croiser, un corridor a été mis en place tout le long du parcours à travers les salons, les chambres et les antichambres. Pas de stagnation et une autre approche, explique Thierry Gosseron, administrateur du château de Versailles.
Les visiteurs sont plus contemplatifs que d'habitude. Ils étaient un peu livrés à eux-mêmes en regardant le plafond, les côtés, sachant pas très bien ce qu'ils devaient faire. Là, il y a une espèce de guide, ce corridor leur sert de guide, et c'est une petite révolution qu'on est en train d'expérimenter.
Un accueil aux petits oignons, des lieux remis à neuf, de quoi relancer l'économie du château qui a déjà perdu plus de la moitié de ses recettes de l'année.
Sophie Echen au château de Versailles pour Europe 1.
Et on se retrouve à 19h30 pour l'essentiel de l'actu. Sophie Tussaud, merci.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB, produit de fabrication française. ArcadeB vous présente la météo.
Quel temps pour demain, Valérie Darmon?
Eh bien, pour cette journée de fête des mers, on retrouve un temps instable et pluvieux des Pyrénées, aux Alpes et à la Méditerranée, avec un risque d'orage. Dans le nord-ouest, les éclaircies vont alterner avec des passages nuageux et davantage d'averses que ce samedi. Et entre ces deux zones, on va retrouver un temps plus sec avec des éclaircies, notamment entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Alsace, en passant par l'Auvergne et par la Bourgogne. Sur le bassin parisien, le temps sera extrêmement variable. Les maximales de ce dimanche, entre 15 à Saint-Giron et 24 à Marseille. Pour certaines, elles sont du niveau d'un début d'octobre.
Merci Valérie Darmon. Et à suivre dans ce grand journal du soir, Wendy Bouchard.
La France qui continue son offensive antiterroriste au Mali, quelles que soient les circonstances internationales, qui exécute un important chef d'Al-Qaïda au Mali. C'est notre dossier du jour à suivre sur Europe 1.
Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. Il est maintenant 19h13 et on écoute le monde changer avec nos invités comme celui qui nous rejoint en direct
oui,
ce soir.
Un monde qui change ou un monde qui dure au contraire, puisque nous parlons de la persistance d'un combat, en l'occurrence la lutte antiterroriste. Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et tard hier soir, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé la neutralisation, ça c'est le langage militaire, de l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est clairement un cerveau qui tombe dans la région ou c'est d'abord une prise symbolique?
Alors Florence Parly parle de succès majeur.
Oui.
Majeur soit, mais pas décisif. Pour une raison assez simple, c'est que vous avez aujourd'hui une rivalité intense entre deux planètes de la galaxie djihadiste. La planète Al-Qaïda, donc avec Acme, dont effectivement Abdelmalek Droukdel est le fondateur, héritier des GSPC, des GIA algériens,
maquis des
années 90, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez en quelque sorte la filiale saharo-sahélienne de l'État islamique, de Daesh, ça s'appelle l'EIGS. Et aujourd'hui, le foyer le plus actif, il se trouve dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières, le Liptako-Gourma, donc aux confins du Mali, du Niger, du Burkina Faso. C'est d'ailleurs là que le dispositif français Barkhane concentre ses efforts depuis plusieurs mois. Et ça, c'est le sanctuaire de l'EIGS. Donc, évidemment, Droukdel n'est pas du menu fretin. C'est un gros poisson. Ça n'est pas le plus gros, parce qu'au sein même de la nébuleuse numéro 1, donc Al-Qaïda, vous avez Iyad Agrali, qui dirige aujourd'hui ce qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui est lui aussi le plus actif. Puisqu'au fond, vous avez vu descendre au fil des ans vers le sud, ces foyers actifs-là, avec l'ambition, évidemment, d'être performant sur le Mali. Si on rembobine un tout petit peu le film, on se souvient qu'encore une fois, Droukdel, dont le bastion est la Kabylie, donc au nord de l'Algérie, bien loin du front malien, il descend en 2012, il fait alliance avec Iyad Agrali, et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelait à l'époque le dispositif Serval va enrayer l'offensive qui avait vocation, en théorie, à aller jusqu'à Bamako, la capitale malienne. Et c'est vrai que loin de ses bases, Droukdel était sans doute un peu moins à l'aise que quand il s'agissait, par exemple, de harceler les forces de sécurité algériennes dans ses propres fiefs.
C'est l'une des têtes de l'hydre, hein, vous entendez, qui tombe. Absolument. Voilà, victoire symbolique, du moins, Vincent Hugeux, et votre éclairage est très clair aujourd'hui. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est dans une nébuleuse terroriste, vous évoquez ce terme vous-même, dans laquelle, quand même, se débat aujourd'hui la force Barkhane, 5000 militaires français déployés, qui ont eu le sentiment de poursuivre sans fin les djihadistes il y a quelques mois encore, qui ont redéfini un peu leur mission pour que l'objectif soit peut-être un peu plus clair aujourd'hui.
Vous savez, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, notamment pour l'Express, d'aller accomplir des reportages sur le terrain, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et soyons clairs, Barkhane a hérité d'une mission impossible. C'est-à-dire qu'on est là sur un immense territoire, cinq pays, avec une adversité qui s'adapte très bien aux contraintes du terrain, des petites cellules extrêmement mobiles qui vont tenter d'éviter au maximum les déplacements de convois qui sont repérés, parce que vous imaginez bien qu'au-dessus de tout ça, il y a une infinité de surveillance satellitaire qui opère, d'ailleurs conduite le plus souvent par les Américains. Et dans l'opération Droukdel, il y a eu d'ailleurs une sorte de combinaison du renseignement français et des informations recueillies par les Américains au-dessus de nos têtes. Donc voilà, ça c'est vraiment la difficulté de cette opération. Et quand vous discutez avec des officiers ou des soldats du dispositif Barkhane, ils vous le disent, on balaye le désert. Mais pour autant, il y a un autre problème qui est fondamental. Vous savez, il y a très régulièrement des sommets du G5 Sahel, où on parle de la montée en puissance de cette force donc panafricaine, les cinq pays concernés, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad.
Combat,
Mais en réalité, soyons clairs, c'est une fiction. C'est-à-dire que moi, j'entends parler de cette montée en puissance depuis à peu près 6 ou 7 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les forces africaines ne sont pas suffisamment formées, équipées et entraînées à un type de conflictualité assez inédit pour être performante. Il y a du mieux, mais on est encore très loin. Et j'ajoute un dernier point qui me paraît absolument crucial, c'est que, si vous voulez, et là, ça aussi, les officiers vous le disent, la partie militaire n'est qu'une facette de ce défi. Si vous avez, imaginons, dans un monde idéal, une opération militaire qui serait sur le plan technique parfaite, sans le moindre accroc, sans la moindre erreur de jugement ou de décision. Si, par ailleurs, sur le terrain social et politique, rien ne bouge, eh bien, en fait, vous apercevez que Vous frappez une tête, l'hydre dont vous parlez, c'est vraiment la plus belle image, c'est celle de l'hydre de Lerne de la mythologie grecque, c'est-à-dire vous tranchez une tête, une autre repousse. La nébuleuse djihadiste a montré son aptitude à se régénérer, elle a une résilience extraordinaire, et surtout, contrairement à ce qu'on croit en Occident, elle n'opère pas que par la coercition. À l'échelon local, vous avez une inclusion dans le tissu social, tribal, oui, clanique, par le jeu de mariage, d'achat d'allégeance, etc. Donc encore une fois, tant que dans ces régions excentrées, je pense au nord du Mali, on aura l'impression, qui n'est pas totalement infondée, d'être négligé, voire méprisé par le pouvoir central ou ce qui en tient lieu à Bamako, eh bien vous aurez là un gisement de recrutement extrêmement fécond pour le djihadisme.
Qui se nourrit, Vincent Hugeux, de toutes les divisions communautaires, claniques du moment. Hein.
Avec un exemple éclatant qui est le centre du Mali. J'évoquais ce mouvement du nord vers le sud tout à l'heure. Au centre du Mali, vous avez effectivement, enfin sans faire d'essentialisme à 3 francs CFA, mais vous avez des conflits communautaires qui sont ancestraux. La différence, c'est qu'hier, on se battait à la sagaie et au couteau. Aujourd'hui, on se bat à la calache et au lance-raquette. Et les djihadistes ont vu tout le profit qu'ils pouvaient tirer du fait d'instrumentaliser des conflits qui sont des conflits assez classiques entre pasteurs, agriculteurs, pour des zones de pacage, etc. etc. Donc, le centre du Mali, aujourd'hui, est l'une des zones aiguës, où d'ailleurs, les stratèges de Barkhane me disaient il y a quelques années « Ah non, ça c'est pas notre job, on n'y va pas, nous on est plus au nord », et ils s'aperçoivent qu'ils sont obligés d'y aller aujourd'hui. Parce que c'est en fait une autre image qui me paraît assez performante, c'est celle du cancer et des métastases. Vous avez effectivement des métastases du cancer djihadiste qui éclosent, pas seulement au nord du Mali, mais au centre aujourd'hui.
Voilà, la mission impossible dont a hérité cette force française des militaires, force Barkhane. Pour revenir à la neutralisation quand même de cet émir, Vincent Hugeux, est-ce qu'il faut s'attendre à une réplique d'ACMI sur zone exportée dans notre pays?
Alors, si l'on s'en tient au mode opératoire habituel, d'abord, il devrait y avoir une confirmation. Oui, avec la tradition de Al-Qaïda et de ses satellites, de ses filiales, c'est à un moment donné de valider, de confirmer et effectivement de promettre, de venger, le martyr, etc. etc. Sur ce qui concerne le territoire français, et à l'écoute des spécialistes du renseignement qui en parlent avec plus de compétences que moi, je suis assez sceptique parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, cette nébuleuse-là ait la capacité opérationnelle d'exporter à la fois... des acteurs, c'est toujours possible, mais un matériel sophistiqué, de mettre en place un dispositif avec les planques, les plans B, C, D, E, etc. Donc là, je crois que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu principal, encore une fois, c'est ce qui se joue en ce moment à la charnière des 3 pays que j'ai volés, que j'évoquais, Mali, Niger, Burkina Faso. Et c'est aussi l'idée de frapper non seulement la tête de la pyramide, mais aussi les échelons intermédiaires. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que la France revendique la neutralisation, donc mort ou arrestation, d'un demi-millier de combattants de l'ensemble de la nébuleuse djihadiste. Et dans ce demi-millier, il y a, semble-t-il, à la fois le combattant de base, le chef de brigade, le sergent recruteur, le dignitaire religieux qui donne une sorte d'onction spirituelle à cette fuite en avant démente, etc. etc. Donc ça, c'est un phénomène important. Le fait également... Et ça a été détaillé sur votre antenne que dans la même période, vous ayez un des vétérans du djihad qui s'appelle Mohamed Al-Rabat, mais qui lui appartient à l'autre filiale, c'est-à-dire enfin l'autre nébuleuse, c'est-à-dire l'État islamique, le IGS, est évidemment pas du tout anodin. On n'est pas encore au stade où vous auriez une sorte de dynamique qui créerait la panique ou la débandade. On n'en est pas là du tout. Ça, il faudrait beaucoup de candeur pour le croire.
Eh bien, spécialiste de l'Afrique a parlé. Il faut s'y connaître en matière de nébuleuses terroristes dans ces régions si sensibles. Vincent Hugeux, merci beaucoup. Je précise que vous êtes également l'auteur de Kadhafi, une biographie du guide libyen paru chez Perrin. Et je vous remercie d'être venu nous parler de cela en studio ce soir. Merci beaucoup, Vincent Hugeux.
Europe 1, 19h22, la suite du Grand Journal du soir. Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète sur Europe 1, le journal de l'environnement que nous présente chaque samedi Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, je vous emmène visiter le parc de Bercy à Paris pour voir ce qui a poussé, fleuri, niché dans nos villes pendant le confinement. Un skipper français embarque sur son bateau un filtre pour mesurer les microplastiques en mer. Et puis en 2020, c'est la fin de l'avion pour ma copine Catherine.
Alors vous avez peut-être remarqué vous aussi des pelouses qui ont poussé, et bien poussé, jusqu'à 20 ou 30 cm de haut dans les parcs. Des pelouses qu'on ne tond pas, en tout cas une partie de ces pelouses qu'on laisse comme ça un peu sauvages.
Oui, et c'est volontaire parce que ces herbes, elles montent en graines, elles fleurissent et c'est de la nourriture pour les insectes. Et les insectes nourrissent les oiseaux. Résultat, cette année, les naturalistes observent les mésanges nichées pour la 3e fois. Les mauvaises années, c'est une seule couvée. Je suis allée cette semaine au parc de Bercy, 14 hectares en plein Paris, où certaines pelouses sont laissées aussi en friche pour que les hérissons aussi ou des petits rongeurs puissent s'y cacher. Alors le directeur de l'Observatoire parisien de la biodiversité, Philippe Jacob, n'a pas de chiffres pour l'instant, c'est trop tôt, mais grâce au confinement et à une météo très clémente aussi, il observe un peu plus d'oiseaux et d'insectes cette année.
Les oiseaux, là, on voit ce matin, ils étaient là, que ce soit les étourneaux, les moineaux. On voit encore une libellule en train de volter, là, qui vient sans doute chercher ses insectes qui sortent de l'eau.
Et voilà, et on laisse même pousser les orties jusqu'à 1 mètre de haut dans certaines allées. Oui.
Ça veut dire que c'est quand même un retour de la nature, c'est une plante qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui rend service à de très nombreux insectes, notamment toute une cohorte de papillons, qu'on appelle les vanesses, qui vont venir pondre spécifiquement sur les orties, et dont la chenille ne mange que des feuilles d'ortie.
Donc sans orties, ces papillons disparaissent, et les naturalistes ont vu pousser à Paris même des orchidées sauvages. Alors il y a d'autres villes hein, comme Rennes, Strasbourg, Versailles ou Arcueil, qui laissent des bords de route ou des pelouses en jachère en quelque sorte. Selon un sondage réalisé par l'association Plantes et Cités pendant le confinement, 43% des communes sont prêtes à continuer de laisser des espaces comme ça en friche. Et quand la biodiversité se porte un peu mieux, les services gratuits rendus par la nature sont meilleurs. C'est ce que souligne Magali Charmet de l'Office français de la biodiversité.
L'année 2020 va être assez exceptionnelle pour les apiculteurs en matière de production de miel. C'est un service directement lié à la nature, à la biodiversité. Et donc, cette production de miel, on sait cette année qu'elle est liée à une météo exceptionnelle, hein, très propice à la floraison. Mais on pense aussi que l'entretien des espaces verts qui a été beaucoup moins important a eu un rôle. Les abeilles ont été moins dérangées parce que moins de bruit, pas de promeneurs dans les parcs et donc une capacité à pouvoir se déplacer facilement.
Vous avez parlé des espaces verts publics, c'est très intéressant, mais on encourage évidemment Virginie Salmen, nos auditeurs qui ont un petit bout de jardin, à le laisser en partie ensauvagé, en friche, hein, pour exactement les mêmes raisons.
Oui, ça marche aussi comme ça.
Et complètement. Dans l'écho de la planète, à la une encore, le skipper français Fabrice Amédéo qui va fixer à son bateau un capteur de manière à mesurer la teneur de l'eau de mer en microplastique.
Oui, il va mesurer cette pollution invisible parce qu'il m'expliquait qu'au large, on voit rarement des bouteilles en plastique ou des canettes flotter, mais l'eau est chargée de microplastiques. Alors Fabrice Amédéo nous raconte comment marche ce capteur.
Il se présente comme une sorte de petite valise avec différents filtres. Il va tourner 24 heures sur 24 pendant une première course au mois de juillet et puis ensuite pendant les 3 mois de navigation du Vendée Globe autour de la Terre. Moi, mon job, ce sera 2 fois par 24 heures de changer les filtres. Ces filtres qui piègent les microparticules de plastique. Ils sont assez lourds, hein. C'est un vrai engagement extra-sportif parce que ça va un peu pénaliser ma course. Ils sont ensuite stockés dans des sortes de gros sacs. Et à l'arrivée de la course, les scientifiques qui suivent le projet, notamment les scientifiques de l'IFREMER, seront là pour m'accueillir et pour récupérer ces précieux filtres et pour pouvoir les analyser.
Voilà, ça fait 50 kilos de plus sur le bateau quand même. Et ce qui intéresse particulièrement les scientifiques, c'est qu'il va faire le tour de l'Antarctique, donc explorer des mers dont on connaît mal le niveau de pollution.
Très bien, on termine avec l'humeur de votre copine Catherine, Virginie.
Oui, Catherine qui a maintenant une très bonne excuse pour ne plus prendre l'avion, les distances sanitaires. Elle a longtemps eu l'impression d'être la rabat-joie de service, de devoir se justifier auprès de sa famille. Et ses parents l'ont traitée d'ayatollah ou de Khmer vert. Elle qui, auparavant, allait surfer à l'autre bout du monde en Asie. Elle a commencé à devoir se justifier de ne plus vouloir prendre l'avion, par exemple, pour aller à un baptême en Corse. Elle n'a pas réussi à s'enlever de la tête qu'un voyage en avion pollue 1500 fois plus qu'un trajet équivalent en TGV. Et puisqu'on en est au déconfinement, eh bien, elle savoure son choix de destination de l'été, une île bretonne. Elle avait réservé avant l'épidémie et elle ne savait pas que ce serait aussi tendance, les îles bretonnes.
Merci. L'écho de la planète avec Virginie Salmen, chaque samedi dans le Grand Journal sur Europe 1. À la semaine prochaine, Virginie.
Bonsoir.
Europe 1, 19h27, à suivre, Wendy Bouchard.
L'essentiel de l'actualité, l'œil de Frédéric Dabi qui nous parlera de ce second tour des municipales totalement déconnecté du premier. Et pour cause, c'est la plus longue campagne électorale sous la 5e République. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez le Grand Journal du soir avec Wendy Bouchard.
Et voici le rappel de l'actualité, Sophie Tussaud, on vous écoute.
Un samedi de mobilisation pour protester contre les inégalités raciales et les violences policières partout dans le monde. Un hommage à George Floyd, mort asphyxié la semaine dernière aux États-Unis lors de son interpellation. En France également, dans de nombreuses villes, même à Paris où les rassemblements avaient été interdits par la préfecture. Rattraper son retard à l'école accumulé depuis le début du confinement et partir en colo, Jean-Michel Blanquer lance les
les vacances apprenantes. Le ministère de l'Éducation débloque 200 millions d'euros pour les mettre en place cet été. 1 million d'élèves vont en bénéficier. Agnès Buzyn ne gagnera pas Paris au second tour des municipales. Le SMS est rapporté par Le Point et signé Marlène Schiappa. Il s'adressait à des militants LREM. L'entourage de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme n'a pas démenti le message. Ils refusent la fermeture de l'usine Renault de Choisy-le-Roi et l'ont fait savoir. Des centaines de personnes, salariés, élus et habitants, ont marché aujourd'hui dans la ville de banlieue parisienne. Des cérémonies intimistes pour le 76e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie à huis clos, sans vétérans en raison de la pandémie. Et puis elle a été mise en service il y a 4 jours et déjà utilisée par 1 million de personnes. L'application de traçage Stop Covid remporte un franc succès.
Merci Sophie, à tout à l'heure 20h.
Il est 19h30. Voici comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Avec les municipales acte 2, après une suspension de l'élection, une suspension inédite. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Eh bien vous avez voulu nous parler ce soir de la plus longue campagne jamais vécue au fond sous la 5e République. Les listes ont été déposées cette semaine.
Oui, tout à fait, c'est un scrutin inachevé avec une campagne qui reprend après 3 mois d'arrêt lié bien sûr au confinement du fait du Covid-19. Vous le disiez Wendy, c'est la plus longue campagne jamais vue sous la 5e République pour 16 millions de Français appelés aux urnes. Les Français dont la commune n'a pas été pourvue au premier tour. Il y a une déconnexion avec le premier tour quand, traditionnellement, les deux tours sont indissociables il y a moins d'une semaine entre un premier tour des municipales traditionnelles et un second tour.
Oui, ça rend évidemment ce second tour inédit. Vous le rappeliez, pour 5 à 6 000 communes qui n'ont pas eu de maire élu ou réélu au premier tour, ça indique aussi une nouvelle manière de faire campagne, hein, dans le prolongement du 15 mars d'ailleurs.
Oui, on est vraiment sur une campagne qui va se dérouler sous le sceau de l'inédit, du jamais vu, avec une nouvelle manière de faire campagne. Il n'y aura sans doute pas de meeting, pas de porte-à-porte, peu de déplacements des différents candidats, par exemple sur les marchés, il y en aura quand même, avec une campagne qui se jouera dans les médias, sur les réseaux sociaux. On peut penser que la profession de foi qui était un petit peu passée de mode va jouer un rôle très important, ce que les électeurs reçoivent quelques jours avant le 28 juin. Ça va être une sorte d'intermédiation entre les candidats et les électeurs. C'est du jamais vu sur la manière de faire campagne, mais il faut faire confiance aux électeurs, aux Français, pour se réinventer une relation entre représentants et représentés dans le cadre de cette campagne à venir.
D'ici le 28 juin, alors votre œil s'intéresse aux inconnus qui s'opposent justement pour ce type de scrutin, la participation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'abstention record du premier tour ?
C'était une abstention, vous avez tout à fait raison, une abstention record, 54% d'abstention. C'était la première fois qu'un scrutin municipal dépassait 50%. Le premier parti, c'était les 25 millions de Français qui n'avaient pas voté. Oui. Et là, il y a une véritable inconnue avec deux possibilités. Soit, en continuité avec le 15 mars, il y aura un nouveau record d'abstention avec des Français qui n'auront peut-être pas la tête au vote du fait des inquiétudes sanitaires, des inquiétudes bien sûr sur le plan économique avec cette montée en flèche du chômage. Mais au contraire, et c'est peut-être mon intuition personnelle, avec le recul de la crainte vis-à-vis de l'épidémie que l'on mesure chaque semaine à l'IFOP, l'absence de rebond d'une deuxième vague de Covid-19, la réussite du déconfinement tel que perçu par les Français, cette campagne qui va être longue avec des vrais matchs, des têtes d'affiche à Paris, Lyon, Marseille, Lille, peut-être que la participation va être plus forte et qu'elle sera en ligne avec les scrutins municipaux précédents qui sont, hein, rappelons, traditionnellement participatifs. Les Français votent le plus au municipal, juste derrière l'élection présidentielle. Peut-être, Wendy, que cette participation plus forte sera comme un symbole, un retour à la vie d'avant.
Oui, envie de participer à la vie de la cité, à la vie politique. Hein. En tout cas, en ce moment, les jeux se font avant le 28 juin. Et l'imbroglio des alliances, vous vouliez insister là-dessus, Frédéric ?
Oui, on a vu toutes les listes déposées mardi à 18h avec La République En Marche qui s'est alliée très fréquemment avec les Républicains à Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Alors, il y a une certaine logique. On a vu dans beaucoup d'enquêtes la porosité entre l'électorat LR et l'électorat LREM sur le soutien aux réformes d'Emmanuel Macron. J'avais parlé de sainte alliance entre sympathisants de droite et sympathisants de La République En Marche. C'est aussi logique par rapport aux élections européennes où on a vu une partie importante de l'électorat de droite voter pour la liste En Marche. Mais clairement, Wendy, il y a une rupture avec la promesse du macronisme qui était réunir dans le même parti des gens de gauche, des gens de droite, prendre les meilleurs. Là, clairement, on voit une union des droites et de La République En Marche. Ça aura peut-être des conséquences sur la suite du quinquennat.
Voilà pour le premier fait que vous retenez cette semaine, les municipales, deuxième tour, en ligne de mire. Et dans l'actualité encore, Frédéric Dabi, votre œil retient le cas Napoléon, une liberté d'expression dont vous dites qu'elle est en danger. C'est parti de l'annulation par une école de commerce d'une conférence de l'historien Thierry Lantz sur Napoléon et son héritage. Et ça vous fait réagir.
Oui, ça m'a surpris négativement. La Audencia a choisi d'annuler une conférence donnée par un historien très connu, Thierry Lantz, un élève de Jean Tullard qui est le spécialiste français sur Napoléon. Et la direction de cette école de commerce a annulé cette conférence et a jugé qu'il n'était pas opportun de promouvoir l'héritage napoléonien en cette période. Alors, c'est de mauvais augure dans la perspective des débats à venir lors du bicentenaire de la mort de Napoléon l'année prochaine, le 5 mai 2021. C'est bien sûr une figure controversée avec des zones de lumière s'agissant de son apport à l'organisation administrative de la France, le code civil, le baccalauréat, la Légion d'honneur et des zones d'ombre, notamment un personnage qui a été peu économe en vie humaine pendant les guerres napoléoniennes. Mais on doit débattre de Napoléon et ne pas censurer une conférence d'un historien reconnu.
Oui, en tout cas, ça nous renvoie à une certaine régression de la liberté d'expression dans l'enceinte universitaire. Il y a eu plusieurs cas assez récemment.
Oui, c'est vrai qu'on peut voir une régression, une crispation menée par des minorités actives. On se souvient de l'annulation de conférences d'Elisabeth Badinter, d'Alain Finkielkraut, des polémiques autour d'une pièce de théâtre d'Eschyle, Les Suppliantes. Tout ça n'est pas de mauvais augure et c'est en rupture avec ce qu'était par le passé l'université ou les grandes écoles, un lieu de liberté et de débat. Sans doute, on reparlera de ça au moment de ce fameux bicentenaire de la mort de Napoléon. Rappelons-le, le bicentenaire d'Austerlitz, du sacre, n'avait été que très légèrement commémoré, ce qui est quand même surprenant dans un pays comme le nôtre où on commémore à tout va.
Frédéric Dabi, votre point de vue en lien aussi avec les enquêtes pour l'IFOP dont vous êtes directeur général adjoint. On se retrouve samedi prochain sur Europe 1. Merci.
Avec plaisir. Merci Wendy, au revoir à tous.
Et le Grand Journal qui se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Des réflexions françaises aux tensions sociales américaines pour notre affaire à suivre ce soir.
Et oui, nous parlions de ces mobilisations dans toute la France contre les violences policières. L'Amérique gronde aussi face aux exactions d'une partie de sa police. La posture de Donald Trump, on envisage et on analyse tout cela avec un spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana, est avec nous ce soir. A tout de suite.
Il est 19h38 et nous sommes avec Wendy Bouchard sur Europe 1 pour le Grand Journal du soir. Dans l'affaire à suivre, nous revenons sur tous ces rassemblements citoyens partout dans le monde, 10 jours après la mort de George Floyd, ce citoyen noir mort asphyxié sous le genou d'un policier.
Et en réaction à ce meurtre atroce, des manifestations pacifiques ont essaimé dans les grandes villes américaines, de Minneapolis, lieu du drame, à Denver, de Washington à San Francisco, mais aussi, on en parlait chez nous, en France, nous étions avec Alain Bauer tout à l'heure, en Allemagne, en Grèce, en Norvège ou au Canada. Bonsoir Jean-Éric Brana.
Bonsoir Wendy.
Vous êtes maître de conférence à Panthéon Assas, spécialisé dans la politique et la société américaine. Avant de revenir au fond du problème racial aux États-Unis, parce qu'il nous faudrait plus de 8 minutes, comment expliquer l'ampleur de la mobilisation populaire dans le cas présent de George Floyd ?
Écoutez, on vient de vivre quand même une épreuve hors du commun. Ce confinement qui nous a renvoyés chez nous a exacerbé toutes les passions. Mmh. Un penseur américain, Thomas Paine, disait que ces grands moments mettent à l'épreuve l'âme des hommes et l'âme de la société. Il n'avait pas tort, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Et ça a révélé, dans le cas des Afro-Américains, toutes les fragilités qui étaient toujours les leurs, alors qu'on pensait, on avait un petit peu entouré, enterré tout ça, ouais, ou mis sous le paillasson, ouais, que c'était terminé depuis les années 60. Or, que ce soit la pauvreté, les problèmes d'emploi, etc., c'était toujours là. Et il a suffi d'une étincelle, c'est cette fameuse arrestation violente qui tourne mal, qui a remis tout le monde dans la rue.
Et ce n'est pas lié à Donald Trump, ou pas seulement en tout cas, ce slogan Black Lives Matter a commencé sous le premier mandat d'Obama. Hein. C'était un slogan qu'on retrouvait déjà, oui, premier président noir américain qui n'aura pas réussi à conjurer cette violence.
Alors j'entends ce parfois dire que ce serait lié à Donald Trump, je veux dire ça relève de l'obsession de Donald Trump. En réalité, oui, les Américains n'en sont pas là et la plupart d'entre eux n'écoutent même pas ce que dit Donald Trump actuellement. Non, c'est bien décorrélé l'un de l'autre, c'est un problème historique, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de ces relations raciales américaines. Donald Trump n'était pas là pour les premiers chapitres. Il se trouve qu'il est là au milieu du tableau à celui-là, qu'il ne réagit pas bien et en tout cas pas avec le bon tempo, certes, mais c'est pas lui du tout qui met les gens dans la rue. Non, ça me fait plutôt rire quand je l'entends.
Mais justement, pour reparler d'Obama par le passé, de Trump aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne réussissent à faire face à cette vague de violence manifeste aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la police n'a pas suffisamment de contre-pouvoir aujourd'hui aux États-Unis. Éric Brunard.
Alors, au risque d'être accusé d'être un affreux démocrate ou un affreux gauchiste, comme on l'entend souvent, je vais quand même corriger sur Barack Obama, parce que Barack Obama, qui est d'abord le premier président noir, donc il s'inscrit quand même dans une réparation par rapport à l'histoire, a passé quand même son mandat d'abord à lutter contre la crise de 2008, c'est-à-dire à rendre de l'emploi, et c'est bien les Afro-Américains qui ont été les premiers concernés par cette mesure, à travailler à l'Obamacare, et le système de santé est également dirigé pour pouvoir rendre aux Noirs américains un accès à la santé. C'est vrai qu'il y a un vrai raté au moment de certaines affaires qui ont été hautement symboliques. Trayvon Martin en 2012, Michael Brown en 2014, Eric Garner la même année et encore trois ou quatre autres. Particulièrement Michael Brown, parce qu'il ne s'est pas déplacé sur place, même s'il a multiplié les annonces à la télévision avec à peu près les mots d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on garde l'idée que Barack Obama n'a pas été efficace là-dessus, et surtout parce que le mouvement Black Lives Matter, qui est né après Trayvon Martin, a pris de l'ampleur après Michael Brown. À ce moment-là, il s'agissait de dire que, comme on l'a dit précédemment, le problème racial aux États-Unis n'était pas réglé.
Oui, mais est-ce que les présidents ont un vrai pouvoir justement sur la gestion de la police aux États-Unis ?
Et non, et c'est justement là où le bât blesse, c'est que la police n'est pas un pouvoir qui était délégué dans la Constitution au président fédéral. C'est un pouvoir qui est réservé au gouverneur, qui souvent le délègue au maire, puisque la plupart des villes organisent elles-mêmes leur police. C'est bien pour ça que les présidents ne peuvent pas faire grand-chose, oui, à part essayer de passer une loi qui serait là une réponse globale, et il faudrait voir dans quelle mesure d'ailleurs elle pourrait atteindre la police, parce que tout ça est encore une fois très encadré par la Constitution, et il faudrait que les deux chambres soient d'accord. Ça fait beaucoup de conditions aux États-Unis, sachant la lenteur avec laquelle les lois passent.
Il y a un contexte particulier, c'est que Donald Trump, Joe Biden sont en campagne. Il y a évidemment encore une lecture politique de cette mobilisation. Comment vous entrevoyez les choses, vous qui connaissez très bien la politique américaine et donc ces mouvements sociaux aussi?
Bien sûr. Eh bien, écoutez, comme la crise du coronavirus d'ailleurs, c'est une prolongation, ça questionne l'État. Le plus d'État ou le moins d'État. Oui. Et on l'a vu avec l'attitude de Donald Trump pendant la crise, qui ne voulait pas agir alors qu'on lui demandait de le faire. Là, on est dans les mêmes questionnements aujourd'hui. En réalité, la question se pose assez simplement. Que doit le peuple au gouvernement, ou plutôt, on va le prendre dans l'autre sens, que doivent les différents gouvernements à tous les niveaux à ce peuple? Autrement dit, est-ce qu'il faut répondre de façon globale à ce problème racial en essayant de tout résoudre, que ce soit encore une fois les problèmes de santé, les problèmes de police, de justice, d'emploi, etc. Et donc proposer un plan systémique qui répondrait à cette violence raciale systémique.
C'est pas la posture de Donald Trump.
Et c'est là où on voit que la différence est très forte entre Biden et Trump, puisque Biden est en train de travailler à ce plan. Trump répond en disant non, je ne ferai rien, je me contenterai de mes prérogatives, la loi, l'ordre, la religion et les armes. C'est à peu près le seul programme qu'il oppose aujourd'hui à cette question-là, même si depuis deux jours, il essaie de récupérer l'empathie qu'il y a sur cette question-là, avec notamment des clips assez incroyables dans lesquels il explique et qui comprend très bien l'émotion qui s'est développée aux États-Unis et qu'il est du côté de tous ceux qui manifestent.
Avec un message lunaire de Donald Trump hier sur la baisse du chômage aux États-Unis. J'espère que George Floyd, nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour tout le monde. Il corrèle la baisse du chômage à la reprise de l'activité pour les Afro-Américains.
Oui, c'est un message étonnant. En même temps, on va dire qu'il s'est un peu emballé, parce que ce chiffre qui est tombé a surpris tout le monde. Quand on l'a vu tomber, moi-même, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, tant mieux, puisqu'on attendait 20 à 25% de chômage. Il vaut mieux que ce soit plutôt à 13 et se dire que les gens retrouvent du travail et qu'ils sortent un peu de la pauvreté. Tout le monde espère ça pour tous les peuples du monde. Moi qui suis les États-Unis, je le souhaite bien sûr très fortement pour les États-Unis, comme je le souhaite pour mon pays. Et là-dessus, c'est vrai qu'il s'est emballé en sortant du discours très rude et radical qu'il avait eu vis-à-vis des manifestants, et en essayant justement de jouer sur cette émotion pour capitaliser sur le bon effet qu'il y avait avec l'économie. C'est un raté.
Cette machine économique américaine à l'arrêt, puis cette machine américaine qui redémarre, c'est au cœur notamment de votre ouvrage « Rien ne sera plus comme avant », Jean-Éric Brunard, qui est sorti il y a quelques mois, au mois de mars. Chapitre 1, l'Amérique au temps du coronavirus. On est au cœur de l'actualité avec vous chez VA Édition. Merci Jean-Éric Brunard.
Europe 1, 19h45. Dans l'ombre des grands chefs, c'est maintenant Wendy Bouchard.
Et on retrouve Pierre Herbulot en visite dans la cuisine du chef Dorian Vicard. Ce soir, c'est dans l'Oise, un risotto qui sent bon la mer. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, vous entendez derrière moi une vraie cuisine de cuisinier. On quitte mon appartement pour la grange au loup de Dorian Vicard. Bonsoir.
Bonsoir.
Restaurant donc à Apremont, à côté de Senlis, entre Senlis et Chantilly. Alors si je suis là, c'est parce que vous m'avez accueilli avec beaucoup de gentillesse pour la réouverture des restaurants dès 6h30 du matin. Donc on est dans votre cuisine ce soir, qu'est-ce qu'on va faire comme plan ensemble?
Et ben là on a envie de cuisiner donc des gambas qu'on va faire revenir à l'huile d'olive avec accompagné d'un risotto primavera. Primavera, on est dans les légumes verts, on est dans le parmesan, on est un plat frais et en même temps gourmand.
Ça donne envie en tout cas. Par quoi on commence?
Alors on va commencer par décortiquer nos gambas. Ce qui va être important, c'est de les inciser également sur le dos pour retirer le boyau. Et surtout, on va bien garder les têtes des gambas qu'on va faire revenir. On va faire un jus, petit fumé de gambas. Donc là, on va faire revenir nos têtes de gambas. On va mouiller avec un peu de vin blanc, un tout petit peu de concentré. On va déglacer là au
concentré de tomate.
On va déglacer avec un peu de porto blanc et puis on va mouiller avec de l'eau, on va le laisser cuire une vingtaine de minutes. De l'autre côté, on va démarrer un risotto. Voilà, on va faire revenir les oignons et on va faire nacrer le riz. On mouille au vin blanc et on va le cuire avec ce petit fumet également de gambas. Là, le risotto à la fin de la cuisson.
Combien de temps vous faites, vous?
Vaut mieux le cuire doucement, une vingtaine de minutes, et puis bien venir le mouiller au fur et à mesure.
Voilà, il a une belle texture là. Déjà, on entend qu'il y a une première liaison avec la sauce.
Avec les sauces, voilà. On a encore pas nos petits légumes également. On a fait blanchir des petits pois, des fèves, des pois gourmands.
Légumes de saison.
Voilà, les asperges vertes. Et puis, hop, on lit tout ça, mais tout doucement là, faut plus qu'il y ait trop de feu parce que sinon ça va les surcuire et ça va les abîmer. Donc là, les gambas, ce qui est important, c'est bien de les assaisonner. Avant de les cuire. Et puis, on va les démarrer. Attention, on va démarrer fort et puis après, on va baisser un peu. Et voilà, et là on baisse et on va laisser cuire comme ça.
Ah déjà là?
Voilà, on va fermer une petite croûte autour et puis ça va vraiment garder l'eau de cuisson à l'intérieur. Je vais venir les retourner.
C'est donc 15 secondes de chaque côté en fait.
Oui, voilà, voilà. On va avoir ce côté un peu caramélisé là et croquant de la gambasse et le côté moelleux qui va rester vraiment nacré à l'intérieur. Voilà. On retermine la liaison de notre risotto. On goûte, on remet le masque.
Et alors?
Bah, ça méritait encore un tout petit peu de sel, il faut faire attention parce que le parmesan il va venir saler également. Ah, pour bien dresser dans l'assiette, on met le risotto et puis là on va venir déposer dessus délicatement nos gambas. Il n'y a plus qu'à déguster.
On va s'en charger tout de suite. Alors j'attaque. Hein. Allez. C'est délicieux parce qu'on a ce côté hyper crémeux et réconfortant qu'on adore du risotto qui est très léger. Ça peut souvent être un peu lourd, un peu gras le risotto. Et là, en fait, on a tous ces petits légumes qui viennent.
Les petits pois, les croquants.
Ouais, là. Exactement. On est en plein de printemps. Le petit croquant, là, délicieux de cette gambasse croustillante.
Quand j'explique et qu'on dit que mes gambas, je les cuis 30 secondes, on a du mal à croire. Quoi. Faut vraiment avoir une belle flamme dès le départ pour apporter cette croûte autour du produit. Et puis après.
Et puis on a vraiment un résultat incroyable. Ouais. Quoi, entre le côté croustillant autour, nacré à l'intérieur, ouais, c'est ça, avec ce jus. C'est incroyable.
Ça me fait plaisir.
Géniale recette. Merci beaucoup.
Merci bien.
Voilà, mon premier restaurant de
déconfiné.
Voilà. Merci infiniment.
Merci bien. À bientôt.
Merci Pierre Herbulot. La recette dans son intégralité à retrouver sur Europe 1.fr.
C'est cela. Et dans un instant, un jour une histoire.
L'interview de Philippe Legrand avec une personnalité. Ce soir, c'est Jack Lang qui nous parle de l'inauguration du tunnel sous la Manche.
La suite et fin du Grand Journal du Soir, Winnie Bouchard.
On retrouve Philippe Legrand de Paris Match et son invité qui se souvient d'une date au cœur de notre histoire. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir Jack Lang. Bienvenue Bonsoir. Sur Europe 1. Vous avez choisi de revenir, vous, l'homme d'alliance, de culture, de partage entre les pays. D'ailleurs, on y reviendra avec votre manifeste. Vous avez choisi de revenir sur le 6 mai 1994, lorsque le président François Mitterrand inaugure avec la reine d'Angleterre Elisabeth II le tunnel sous la Manche. Un moment important et justement un moment d'alliance.
Un moment bouleversant, émouvant. Incroyable, je dirais. Comment aurait-on pu imaginer que l'on soit capable de construire sous la Manche ce tunnel qui enfin permettait à ces deux pays séparés par la Manche d'être réunis par la terre finalement et non pas seulement par la mer. Non, c'est une histoire fabuleuse.
Le 6 mai 1994, au fond, il y a cette phrase qui circule. L'Angleterre n'est plus une île. Et comme vous le dites, finalement, ce lien est très fort. C'est un lien qui correspond à un vieux rêve de plus de deux siècles. Il faut attendre le président François Mitterrand et Madame Thatcher pour réouvrir le dossier.
C'est un vieux rêve. Évidemment que parfois les envahisseurs de France, je pense à Napoléon, ont pu chérir, faire qu'il n'y ait plus qu'un seul pays entre l'Angleterre et la France. En même temps, même si physiquement on établit ce lien, et ce n'est pas rien quand même, et en plus avec plus tard l'Eurostar qui fait qu'on parvient à Londres très vite, quand même il y a la survivance, heureusement, des cultures. Et le charme de l'Angleterre, c'est de rester elle-même, comme le charme de la France. Mais comme je suis, vous le dites très gentiment, un homme de l'universalité, j'aime les brassages, j'aime les métissages. Et ce tunnel est une histoire de brassage, de métissage absolument extraordinaire.
Oui, parce qu'on parle, Jack Lang, de, au fond, Molière qui rencontre Shakespeare. Il y a ce partage, ou inversement, Shakespeare qui rencontre Molière. Et souvenez-vous, ce 6 mai 1994, la reine s'exprime, elle choisit le français.
Elle choisit le français. Oui, mais moi j'aime beaucoup Sa Majesté Elisabeth II. C'est une personnalité très remarquable que j'ai eu la chance de rencontrer à de nombreuses reprises. Elle parle un français merveilleux. C'est une de ses cultures. Elle est vraiment à l'image de ce que l'on pourrait rêver pour les citoyens de nos deux pays. La langue anglaise, la langue française. Et en effet, elle a parlé en français, de même que lorsqu'elle est venue à Paris en visite d'État, à l'Élysée, son discours officiel a été prononcé en français.
Mais revenons sur ce 6 mai 1994. Souvenez-vous, les parapluies sont ouverts, il pleut au moment de cette inauguration du tunnel sous la Manche. Elle porte un chapeau et la Rolls n'est pas loin. C'est un moment incroyable, une mise en scène avec surtout, comme vous le disiez, ce respect des traditions. Ce moment des traditions est important dans cet échange.
Absolument, oui. C'est une femme qui savait être simple, qui l'est dans la vie normale, mais qui en même temps est extrêmement attachée au signe de sa souveraineté, aux rituels, aux traditions. Et même s'il vente, même s'il neige, même s'il grêle, la reine reste la reine. Et François Mitterrand, d'ailleurs, à sa manière assez majestueuse de tenir son rang, reste président de la République, quelles que soient les circonstances.
Vous avez échangé ensemble ensuite, tous les deux, avec le président, après le 6 mai 1994 ?
Après, avant, plusieurs fois, souvent, sur la reine, il l'aimait beaucoup. Il employait ce mot qui, pour moi, n'est pas un mot banal. Il me disait, c'est une femme gentille. Elle a une forme de gentillesse, d'attention aux autres, de délicatesse, de tendresse. C'est une femme gentille.
Jack Lang, je m'adresse maintenant au président de l'Institut du Monde Arabe. Vous publiez ce livre, vous, l'homme de culture de toutes ces cultures, de cette passion pour les alliances entre les pays. Vous publiez ce livre, La langue arabe, trésor de France, une langue à partager. Pourquoi se manifeste maintenant ?
D'abord, je suis favorable au plurilinguisme. Je pense, on vient de parler de l'Angleterre. C'est une très belle langue, la langue de Shakespeare, quand elle est bien parlée. Mais il n'y a pas de raison non plus de se soumettre à une seule langue. Dans l'enseignement aujourd'hui en France, l'anglais domine l'enseignement des langues. Et je suis pour le plurilinguisme. Et je pense aussi à l'allemand qui est en régression ou à l'italien. Et la langue arabe est une langue qui appartient à notre histoire. Quand François Ier, notre grand roi, a décidé d'imposer la langue française à l'administration de l'État, dans le même temps, il demandait que la langue arabe soit une des langues d'enseignement du futur Collège de France qu'il allait créer. Et ensuite, cette langue arabe s'est inscrite dans notre histoire culturelle. Nous parlons souvent arabe sans le savoir. Le matin, quand je prends un café, j'emploie un mot arabe. Lorsque je mets du sucre dans ce café, j'emploie un autre mot arabe, le mot sucre. L'algèbre est un mot arabe, puisque les Arabes ont joué un rôle très important pour l'essor des sciences et des mathématiques. Donc, ce que je propose, c'est que dans l'école de la République, on assure une meilleure enseignement des diverses langues. J'ai parlé de l'allemand, mais aussi de la langue arabe, au lieu de laisser l'arabe enseigner dans des officines privées, de façon médiocre, et parfois, sous couvert d'enseignement de la langue arabe, on y inculque des valeurs qui ne sont pas nécessairement les valeurs de la République.
Merci Jack Lang pour ce moment d'échange autour de la langue arabe Trésor de France et ses souvenirs aussi de ce 6 mai 1994. Beaucoup de voyages en un moment. Merci d'être venu sur Europe 1.
Merci de votre invitation.
C'était Un jour une histoire, la chronique de Philippe Legrand à la fin de ce grand journal chaque samedi. Voilà, Marlène.
C'est terminé.
Oui, c'est terminé, mais non sans saluer Lionel Rousseau avec une invitée de prestige ce soir dans Europe 1 Sport.
Absolument.
Lionel.
Absolument. Corinne Diacre, dans quelques instants, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, qui a une parole très rare, donc on va l'écouter attentivement. Et oui, puis aussi, beaucoup de personnalités, notamment à partir de 22h, le retour de Tyson, vous y croyez ou pas, avec Mathieu Kassovitz, Louis Acarias et Charles Guitry. On va se régaler.
Merci à tout à l'heure, Lionel Rousseau. Merci à Kevin Ousti qui réalise cette émission, à Naïma Benchemann qui la programme à mes côtés, à monsieur Fabien Lecoeuvre qui est toujours là pour nous écouter, nous accompagner, monsieur.
On se retrouve demain.
Et pour fêter les mamans demain.
Absolument, en chanson.
Au programme, on entendra.
Il y a Louane, il y a Kenji Girac, il y aura Eddie Mitchell, il y aura.
Magnifique.
Bon. Même Vincent Niclot et tant d'autres.
Parfait. Soyez à l'écoute, portez-vous bien, chers amis, bonne soirée. Voici l'info avec Sophie Tussaud.
C'était Wendy Bouchard.